Eric, quoi comme titre pour cet épisode?
Les tonneaux qui s'en vont en cours. Hein.
Non.
Il faudra
non,
écouter jusqu'au bout.
Non, non, mais non, parce que faut un titre. Ah, attends, ouais, attends, ouais, attends, 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 c'est bon. Ah, je l'ai. La vie magique des Mabuntus. Des Mabuntus avec le président bavard.
Tiens, ça t'es bon.
Ah, je te jure. Ah, ben, je suis content d'être venu.
Et le président bavard. Non, la clé magique des Mabuntus et le président bavard.
Oh là 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 là.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission 47 de l'apéro des papas manchots. Je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission avant l'anniversaire. Et qui dit émission 47 dit invité de prestige que j'aurai le plaisir de présenter dans quelques instants. Mais avant tout, on va quand même présenter les titulaires, les habitués, les piliers. Bon, quand même pas de bar puisqu'on est confiné, on n'a plus le droit d'être dans les bars, mais bon, c'est dommage. On a quand même prévu l'apéro, rassurez-vous. J'ai le plaisir d'être accompagné par celui qui a fait son grand retour le mois dernier et qui revient encore en forme, tel le phénix, il va nous illuminer de sa prestance naturelle de la Côte d'Opale. Bonjour Fabrice, comment vas-tu?
Salut à vous, bah moi ça va bien. Nouveau confinement. Et bon, on va fêter ça ensemble. Voilà. Et je suis bien content de participer avec des invités qui seront très intéressants.
Quel faillot. Et j'ai également le plaisir d'être accompagné par Morgane. Bonjour Morgane, comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien. Comment j'ai quelque chose dans la bouche.
Bon, c'est pas bien.
Bon. Parce, là, aujourd'hui, ce soir, je vais avoir une qualité de son exceptionnelle parce que j'enregistre depuis le PC du boulot.
Ouais.
Donc j'ai Mumble sur Windows, je ne suis pas sur Linux.
Oh
ah, ouais. Et je dois vous dire que franchement, le Mumble sur Windows, il est plus joli.
C'est toi qui oses critiquer la dernière fois que j'étais en train d'enregistrer sur Windows.
J'avoue, je pêche. Pour la première fois en 3 ans d'émission, je pêche.
Voilà, c'est vrai. C'est la première fois.
Il est plus joli, le Mumble sur Windows. Hein.
Ah bon?
Ah bon? Les couleurs et tout, il est beaucoup mieux.
Il y a des couleurs, waouh, super.
T'avais peut-être pas le dernier sur Linux, parce qu'il est joli aussi maintenant sur Linux.
Bah ouais, franchement, ça va.
Moi j'ai le 1.3, il est beau.
Bah ouais, il y a la nouvelle version, il y a même, tu vois que t'as ton micro allumé en bas et tout, franchement c'est beau quoi. Et dis même ton entrée USB, combien tu sors de décibels et tout.
Moi j'ai celui sur, j'avais celui sur Ubuntu là. Et...
Ouais, Et tu sais que on va quand même bon comme on ne l'entend plus, on va quand même enchaîner.
Il a planté Windows.
Il l'a planté, mais bon, on va quand même.
Ah, vous m'entendez plus?
Ah si, on t'a entendu. Ah, non, t'as entendu, hein, mais on ne t'entend plus.
Mais là, t'es reparti.
Et il est reparti. Hein. Mais t'es pas là, mais t'es où? Voilà. Hein. Bon, on va quand même, comme il en plus, ça tombe très bien, il parlait d'Ubuntu et que ce soir c'est plutôt autour de Debian qu'on va parler. On va pouvoir parler. J'ai le plaisir de présenter nos invités. Alors, on va commencer par le président. Quand même.
Ah bah oui.
Attends, quand on a un président quand même avec nous, on va quand même le présenter en premier.
Parce que tu le connais en fait. Je sais pas si tu. Est-ce que tu savais que tu le connaissais déjà?
Hein?
Tu l'avais déjà entendu. Mais vas-y, présente-le.
Ah bon? J'avais déjà entendu.
Ouais. Oh. J'ai une exclue.
Ah bon? Bah, bonjour Arnaud, comment vas-tu?
Bonjour à tous. Pas de pression du tout, un président anarchiste, je te jure, ça la fout mal. Hein.
Ah ouais,
ouais, non, je voudrais modérer tout de suite hein, cette présentation fabuleuse et extrêmement horrible pour mon orgueil. Non, je dirais...
Bah, tu t'es quand même déclaré, mais quand on a fait les tests micro, t'as quand même dit, bon, je suis président.
Ouais, faut pas déconner. Voilà. Si tu veux. Ouais, non, mais je suis encore dans cette espèce de douces rêveries, tu vois, où quand tu t'es fait élire président, bon, effectivement, j'étais le seul à vouloir le poste, donc de toute façon, ils avaient personne d'autre. Et en plus, Chenard. Donc, les deux ensemble font que je vis dans un espèce de monde bizarre, assez étrange, tu vois, où un anarchiste président pour moi, c'est tout bizarre, quoi. Et alors qu'en plus, il y a quelques mois de ça, j'étais encore en pause totale de l'informatique et je touchais plus à un seul clavier. Donc du coup, ça me fait drôle d'être présenté comme président. Ça fait, c'est bizarre. Mais merci beaucoup.
Ah oui, remercie. Non mais attends. Et nous, on respecte le statut. Bon, tu vois, le statut qui amène le prestige, tu vois.
Je sais pas si c'est un super statut en ce moment parce que le dernier président qui a pris la parole, franchement, enfin bref.
Ah oui. Bon, et après, tu n'es pas président de n'importe quoi. Tu es président de quoi?
De l'association Debian Facile.
Alors, est-ce que tu peux présenter rapidement Debian Facile avant qu'on passe à notre second invité?
Alors, Debian Facile, à la base, c'est une communauté d'utilisateurs Debian qui voulait rendre le projet accessible. Ils se sont organisés en association en 2013 et depuis, on essaye d'être présent sur le forum, bien sûr, comme la plupart des communautés Linux, pour porter assistance, aide aux nouveaux venus sur Linux. Mais aussi d'être là quand il y a des manifestations particulières dans les gules. Et cette année plus particulièrement, on va essayer de s'associer à d'autres organisations libristes et débianistes, prenant bien sûr comme ça le contre-pied total de l'univers linuxien habituel, c'est-à-dire on se divise et on fait plein de forks partout. Nous, on va essayer de réunir plutôt et de faire que les forces vives du libre soient enfin présentes.
Ça surprend un petit peu ton discours parce que c'est vrai qu'on a tellement il y a tellement de dispo, il y a tellement de sites de ça qu'après tu t'y perds quoi.
Juste qui veut l'unité, c'est beau ça.
Pas l'unité, mais c'est vrai que pour te donner un exemple, mon arrivée sur Debian Facile c'était en 2016 et en fait en 2016 je développais à la base une distribution qui s'appelait Andy Linux. Et la première chose que j'ai fait, c'est de faire mourir Andy Linux et de la fusionner avec Debian Facile. C'est-à-dire de deux communautés, deux forums, deux wikis, etc., en faire plus qu'un. Alors, et j'ai ramené toute ma communauté et toute la communauté Andy Linux, une grande partie, sur Debian Facile, et on travaille maintenant tous ensemble, et ça se passe très bien. Donc comme quoi, les communautés peuvent fusionner, travailler ensemble quand on a des buts communs.
Je dis peut-être une bêtise à propos d'Andy Linux, mais Andy Linux, pardon, c'était pas pour les déficients visuelles
aussi. Non.
Il n'y avait pas de spécialité là-dessus.
Il y avait plusieurs logiciels et plusieurs petits outils, effectivement, qui favorisaient, mais c'était plus nos aînés que les déficients visuels. En règle générale, parce qu'on n'avait pas de lecteur d'écran particulier ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on essaie de développer une interface qui soit facilement accessible aussi par nos aînés, tout simplement, par des gens qui avaient connu le Minitel, par exemple.
Ah oui.
Voilà. Et donc, effectivement, il fallait développer des interfaces plutôt simples, et ça a donné Andy Linux, et qui a bien tourné pendant 2-3 ans, qui a bien fonctionné. Mais qui se trouve beaucoup mieux morte maintenant, et avec ces développeurs qui bossent sur des biens faciles, c'est beaucoup plus sympa comme ça.
Eh ben c'est une très bonne présentation. On va pouvoir enchaîner sur notre deuxième.
Attends.
Oui.
La petite exclue.
Ah.
La petite exclue. Parce que en fait.
Les vieux dossiers. Il a non, sorti un vieux dossier.
Ouais. Très vieux, mais ça va parler à tout le monde. Enfin, surtout à des cas. Parce que en fait, moi, j'ai découvert Arpinux, donc Arnaud, en écoutant Parole de Tux.
Ouh la vache, oui, il y a Captain Posix.
Voilà. Et donc tu le connais, forcément, tu le connais. Et il nous avait parlé de LiveArp.
Oui, du LiveArp, la première distro que j'avais développée en 2011.
Oh là là.
Et du coup, depuis, moi, j'avais toujours continué à le suivre, son blog, etc. Et tu me connais certainement aussi sous le nom d'Alter Librist.
Oh là, oui.
Voilà, on avait échangé pas mal du temps de nos blogs actifs, et donc voilà, moi maintenant je suis Fab, mais j'étais Alter Librist.
D'accord.
Ah ouais.
Ah bah merde. Ah non, je suis sur le cul. Non, sérieux.
Le monde est petit, hein.
Mais parce que j'avais eu de super échanges avec lui, et c'est vrai, avec toi, pardon. Et c'est vrai qu'on avait à peu près la même idée, cette espèce d'envie de faire quelque chose de propre, de clair, d'accessible. Que le Linux soit pas uniquement réservé aux geeks et uniquement voilà, essayer de démystifier un peu tout ça. Et on est, c'est vrai que c'est plutôt rare. La plupart du temps, dès qu'on atteint un certain niveau en développement ou en personnalisation, en maintenance système, etc., on a du mal à rendre les choses claires, simples, accessibles, quoi. Et c'est vrai que tu œuvrais pour ça. Moi, ça m'a toujours plu. Donc, c'est génial. Cool. Ah. Ouais, une super exclue, sympa.
Eh oui. Eh bien, à propos de Captain Posix, on va pouvoir présenter notre deuxième invité, qui, lui, vient du pays du Captain Posix. Bonjour, oh, yes. Amaury, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien. Je suis content d'être avec vous.
Alors, et j'ai envie de la faire à l'apéro du Captain. Alors, Amaury, qui oui. es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu?
Où je vais, ça ne serait pas être évident. D'où je viens, je viens de la Belgique, donc du sud de la Belgique.
Là où il y a... Ah oui, c'est là où il fait 26 degrés toute l'année, c'est ça?
Exactement.
Le microclimat.
Là où il fait bien chaud toute l'année. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, au quotidien, moi, je suis déjà dans l'informatique.
D'accord.
En tant que, ben voilà, je vends du matériel, hein, que ce soit du matériel neuf, reconditionné.
D'accord.
Donc je maintiens ce matériel, je donne des cours, mais dès que j'ai l'occasion, j'essaye de placer une distro libre, et en tout cas de faire la promotion du libre, que ce soit des distributions, des logiciels, et voilà.
Beaucoup pour, tu fais beaucoup du Linux Mint, non?
Je suis un utilisateur de Linux Mint maintenant. Maintenant, avant ça, j'ai testé un peu tout, mais je dois dire que je suis toujours revenu on va dire aux bases Debian, donc Ubuntu, Mint, toutes les variantes officielles.
D'accord. Mais on va essayer de faire un crossover pour essayer de réduire tout le monde. Mais avant,
il a un vrai métier.
Il a un vrai métier.
Ah oui.
Il a un vrai métier, c'est vrai. non, mais bon, on a quand même oublié une question essentielle, messieurs, autour de la table. Quand même, la question numéro 1. Parce que quand même, si on s'appelle l'apéro des papas manchots, c'est pas pour rien. Ah. Et je vais vous dire que à l'heure où on enregistre après une journée de boulot, moi la seule chose que j'ai envie de savoir avant d'enchaîner sur d'entrer en détail dans vos différents projets, c'est qu'est-ce qu'on boit. Et qui a envie de présenter sa petite boisson en premier?
Vas-y Amaury.
Oh la mienne, c'est du costaud, hein.
Ouais.
Une trappiste de Rochefort, une wheat.
Oh ouais. Oh. Ça doit être de la brune.
Ah bah oui hein.
Ah ça doit être bon ça.
Ouais, fort surtout. T'en bois une, c'est assez.
Ah ouais, non, mais c'est bien, ça. Ah ouais, non, mais en plus, c'est vrai que, et comme tu disais toi, hors antenne, ça fait la première fois qu'il faut une nouvelle cuvée pour en 65 ans.
Mais je parle de Rochefort, parce que j'habite tout près de Rochefort. Donc, d'accord. c'est à 10 minutes de chez moi, en fait.
D'accord. Ouais, et puis ça a pas l'air de... Ouais, 56 000 hectolitres, hein, c'est pas non plus de la grosse prod, hein, duction. Hein.
Et Ciné, de l'autre côté, qui est aussi à 10 minutes, ben aussi, hein, la cuvée de Ciné.
Ah ouais.
Et vous, Rochefort, c'est en France?
Non, t'as Rochefort en Belgique.
Ah ouais, il y a les deux.
Ah, c'est pas... Tu sais, il y a plein de villes qui sont en Belgique, qui sont en France. Hein. Il y a Templeuf en Pevel en France, il y a Templeuf Belgique. Et je crois qu'il y a même à Lille en Belgique.
Non.
Ils ont aussi des villes, ils ont aussi pas mal de villes de défaites, genre Waterloo.
Oh, ah, mais c'est parti. Hein.
Oh non, mais tu sais, alors je vais te dire, est-ce que tu connais les Savoyards?
Oui.
Oui, bah tu aurais un Savoyard à côté, dans le salon, donc ne t'inquiète pas, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui est de loin, même à travers le micro, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a les chevilles qui enflent, tu vois. Qui se sent un petit peu au-dessus du lot, qui a commencé une sorte de teint un peu hautain, tu vois.
Attention,
un peu hautain.
Je suis ardennais, hein. Les ardennais, ils sont rustres, ils sont durs. Attention.
Ah non, mais attention, attention, Ardennes contre le Savoyard, je peux te dire que je pense que le Savoyard, il va essayer d'avoir le dernier mot. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, non, mais il faut comment dire, il faut essayer de le mater. Tu vois, il y a des moments où...
Je suis le jeune de la bande.
Ouais, c'est le plus jeune aussi, tu vois. Ah bon, donc il faut essayer
on va
de
te
le...
mater.
Voilà,
il y a quelqu'un qui m'a parlé de collier pour les chiens avec des impulsions électriques tout à l'heure. En antenne, ça pourrait être pas mal, sinon.
Ah ouais, tiens, c'est vrai. Et à tout connecter, tu vois.
on va mettre des réflexes pavloviens.
On a choqué Fabrice, ça y est, on l'entend même plus.
Fabrice,
qu'est-ce que tu bois?
Alors moi, je bois toujours une bière artisanale du sud-ouest. C'est une bière de la brasserie Dolt, bière blonde artisanale occitane qui s'appelle la Sabet Skele. Je sais pas si je prononce bien.
Ah ouais, non, ouais, c'est... Ah ouais, tiens, c'est marrant parce que je l'ai en... Ah, ça doit être en langue d'oc parce que...
Ouais, ouais. Se voit bien.
Là, après, c'est plus Arnaud qui va pouvoir nous dire si, si c'est bien prononcé ou pas.
Ah non.
Non, même tu sais pas. Tu connais pas trop l'occitan.
Non. Ah non, pas du tout. Non, désolé. Non, en fait, je suis à Montréal, effectivement en Occitanie, quoi. Mais à la base, je suis né à Paris.
Ah. Ouais. C'est, ouais. C'est pour ça que bizarrement, ça casse le mythe d'un coup.
T'es un néo-rural, quoi.
C'est ça. Ouais. Ou carrément. Ouais. Non, je suis un planqué dans un village.
Ah d'accord. Bah tiens Arnaud, qu'est-ce que tu bois?
Non, je suis resté dans le classique. Je me suis dit tiens, quitte à me faire une bière, je vais me faire un bon souvenir. Et je me suis tapé, vous connaissez tous évidemment, une bonne Chimay bleue.
Ah bah bon, écoute, c'est une bonne référence.
Voilà, écoute, dans le coin, là où je suis, juste avant le confinement, les bières artisanales, pour les trouver, c'est un petit peu chiant. Ouais. Et je me suis dit vraiment, allez, je vais me faire un revival de mes premières bières brunes que je m'étais tapées quand j'avais 20 piges. Et donc une petite Chimay bleue. Voilà, et je retrouve le goût, hein. Rien à dire.
Ah, c'est toujours aussi bon. Hein.
Voilà, c'est du classique. Hein. Mmh. Voilà. Donc pas grand chose à dire dessus, navré, pas d'histoire merveilleuse, pas de voilà.
C'est juste une
Chimay bleue quoi.
Mais c'est toujours aussi bon. Moi, franchement,
une trappiste de Rochefort, moi. Voilà, c'est tout. Voilà, tu vois, c'est...
Mais non, mais ça fait rêver, tu sais, une trappiste de Rochefort. D'un seul coup, wow. T'imagines des trucs. Ah. Et tout.
Là, tu nous vends du rêve, tu vois. On imagine le moine en train de regarder son houblon, tu vois, et tout, avec sa robe de bure et tout, tu vois.
Et ses joues bien rouges.
Oui. Tu sais, là, genre la pub chaussée au moine, mais en bière, tu vois, mais... Je suis pas sûr. Maintenant, ça doit être de la vraie production avec des gros trucs bien professionnalisés. Mais j'ai l'impression que, tu vois, on parlait du Savoyard tout à l'heure, mais tu vois, il ose plus parler au moment de l'apéro. Et je pense que là, on va casser tout de suite le mythe. Morgane, qu'est-ce que tu bois?
Ah, je vous ai ramené une petite spécialité de ma région.
Ah, c'est vrai. La brasserie du Mont Blanc.
Je vais l'ouvrir et vous allez voir si vous devinez. Enfin, on va voir si ça fait du bruit.
Et au bruit, on doit.
Bah non, y a pas de bruit. c'est un bruit de vent.
Ah, ça marche pas. Je suis en train de dévisser en fait, un peu comme une.
C'est de l'eau pétillante.
C'est une bouteille de Porto, mais en fiole là, les miniatures.
Ah bon,
en fait, dedans, c'est
une bouteille de Porto.
La bouteille. Et le contenu, c'est un paysan qui me l'a mis. C'est une petite gnôle de pomme.
Ah.
Oh putain.
Je vais voir ça en live.
Oh putain.
Ça va être absolument dégueulasse. Vous allez pas voir ma tête. C'est juste pour faire découvrir les petites gnôles locales.
Ah. Ah, c'est stop Covid, ça.
Un truc à 40 degrés.
Ah, c'est ça. Ça tue tout, ça.
Ah ouais.
Ça fait gel hydroalcoolique aussi, ça.
Il a la bouche désinfectée.
Ah ouais. Là, je te jure, Morgan, voilà. Si tu chopes le Covid avec ça, dans les 3 jours, je comprends pas. Tu t'es purifié avec ça.
Eh ben... Non, puis personne n'approchera non plus, hein, en plus. Hein.
Ça va, ce soir, faut que je garde mes distances.
Eh, t'as pas besoin d'antigif pour ton pare-brise demain matin?
Ouais. Non, ça va, c'est télétravail, hein, c'est cool.
Ah ouais, c'est vrai. Ok. Bon, bah moi, je vais enchaîner sur un classique qu'on a déjà eu dans l'émission. Hein. C'est une Anosteke, la blonde classique, toute simple, toute bête, pareil. Hein. Donc, tu vois, Arnaud parlait de la Chimay bleue, bah moi, c'est la Anosteke. Voilà. Je n'ai pas pris une bière wallonne, excuse-moi.
Ça, c'est une faute.
C'est une faute, je sais. Mais bon, le jour où les wallons seront faire de la bière...
Non.
Oh Dieu.
Bon, je vous laisse.
Ça tire à balles réelles, là.
Il va nous le fâcher.
Mais non. Parce qu'en plus, celle-là, j'ai été l'acheter à la glanerie juste après la frontière. Hein, donc,
non, voilà. Ça va. C'est pas grave.
Ouais. Bah oui. Bah, et je suis frontalier, hein, donc voilà. Ça, c'est. Je suis très prêt. Alors, honte à moi. Là, vous avez le droit de me flageller.
Bon, on va le faire.
Je bois ça dans un gobelet Star Wars en plastique.
aïe.
Mais ça, c'est pas prévu, ça.
Ouais, mais si, c'est à Star Wars dessus, enfin, je suis désolé, mais ça rattrape, quoi.
Ouais, mais c'est gobelet plastique, tu vois. Parce qu'après, il y a un grand débat entre les gobelets plastiques, les canettes en fer.
Non, il n'y a pas de débat. Les canettes en fer, c'est dégueulasse, et les gobelets en plastique aussi. Mais quand il y a Star Wars, c'est bonus. Faut arrêter le débat, là.
c'est un des grands sujets de l'émission. Hein.
Oh, mais non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Mais comme vous avez fait des émissions sur des débats pareils, c'est impossible. On ne boit pas une bière dans une canette.
On est d'accord, on est d'accord. Non, mais bon, bah... mais il y a le petit jeune, le petit con, là. Bah, il va pas le voir.
Écoute, ouais. À la limite, si vraiment tu veux boire en canette, mets un tout petit peu de sucre dedans et mets une paille.
Oh, voilà. Non. Mais et, tu sais Arnaud que le commentaire le plus constructif qu'on a eu en 47 émissions, c'est quelqu'un qui nous a quand même fait un commentaire d'au moins 10 lignes sur le pour défendre les canettes en fer.
C'est pas vrai.
Je te jure.
D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles. Hein. On
l'a fâché. Je sais pas qu'on l'a vexé.
On l'a fâché.
Mais non, il a raison. Je suis désolé, les gars. Il a raison.
Non, bah, oui, mais c'est juste un de tes fans. Si ça se trouve, c'est toi.
C'est toi. En fait, c'est toi. On sait que c'est toi. Ok. Bon, bah, on va quand même enchaîner sur l'interview, mais juste avant, je vais essayer de faire quelques petits remerciements à Cédric Abonnel. Tiens, que ça me rappelle quelqu'un. Colin Hutchesson, on va revenir également à Linux 96, Lord ton père, Matt, prof du web, Kasi Golin, et Z6PO, et enfin, nous avons Nico Réagir. Qui est Routard 92, j'espère pas revenir trop loin, Ruben Almerao, et le Coma Électif et Mobuntus, qui a quand même aussi fait des petits coucous sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous avons eu notre premier commentaire sur notre page Facebook, je vais essayer de le retrouver tout de suite, parce que j'ai pas tout compris ce qu'il voulait dire, mais je pense que globalement, j'ai l'idée. Hop. Alors, tac, parce que... Hop, il y a aussi Mobuntu qui nous avait remercié sur le Facebook.
Ah bah, et, oui. Bah oui, c'est des gentils.
C'est des gentils, ils sont gentils. Hein.
Avec
ils sont
un grand cœur.
Ah oui, parce que faire ce qu'ils font, nous, on est tout petits à côté. Hein. Moi, les reconditionner des PC et les envoyer au Togo, ne sont tout petits. Alors, c'est Arlock Saga. Suite à l'émission, HoloS foireux, un support réglable pour un ou deux écrans permet de garder sa place, mais aussi de mettre au niveau de la vue. Merci pour l'émission de la part d'un amateur de bière. Alors je ne sais plus pourquoi on parlait d'écran. Moi je sais qu'on avait parlé que d'écran de DS, mais là ça me paraît. Je suis désolé pour toi Arlock, mais ça me paraît un peu trop loin. Désolé, mais bon, merci pour le commentaire. Voilà, on revient à nos invités. Alors, on avait quelques questions. Bon, alors maintenant qu'on connaît Amaury et Arnaud, vous avez un projet en commun. Alors, si vous pouvez nous le présenter rapidement.
Je te laisse commencer.
D'accord, ça marche. Alors, pour présenter le projet, juste pour savoir d'où ça vient en gros. Donc, Emabuntus reconditionne les ordinateurs par l'eau et les envoie régulièrement soit au Togo via l'association Yovo Togo, mais fournit aussi des écoles, des associations en France, etc. Mmh. Moi, j'avais participé au développement d'Emabuntus avec Patrick quand il était passé sur Debian.
Oui.
Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a plutôt, on s'est plutôt bien, très bien. Quand je suis arrivé sur Debian Facile, j'avais pour projet de relier les communautés et d'essayer justement de tracer des liens entre toutes ces communautés Linux qui ont le même but. Et la première communauté vers laquelle je me suis tourné, c'est celle que vraiment je trouve fabuleuse parce que le collectif Ubuntu, comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est une idée que j'aurais aimé avoir. Reconditionner des ordis pour les filer aux plus démunis, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, en fait, de plus humain, de plus éthique dans le libre que ça. Parce que nous, on gique, on s'amuse, on rigole, etc., c'est bien. Ouais. Mais eux, ils agissent directement sur le terrain et avec des gens qui en ont vraiment besoin, surtout en ce moment, ça devient de plus en plus délicat. Donc, c'est vraiment une assoce vers laquelle je voulais me tourner et Patrick, quelqu'un avec qui je voulais travailler. Et donc, je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Quand moi, je suis arrivé à Debian Facile, j'ai proposé ça à la communauté. Tout le monde était d'accord aussi, et très positif. Et dans le même temps, Amaury, lui, qui était en Belgique, reconditionnait des ordis et utilisait aussi Emabuntus, et donc était en rapport avec le collectif Emabuntus, pour reconditionner quelques ordis. Tout ça s'est fait en même temps pendant l'été. On a commencé à en parler ensemble, et on s'est dit, tous ensemble en gros... autant montrer à tout le monde comment le faire. plutôt que de le faire nous chacun de notre côté à notre petit niveau, enfin petit pour Amaury et moi, et très gros niveau pour Emma Buntus, mais en local de notre côté, autant distribuer et montrer à tout le monde comment on peut faire pour permettre à tout le monde de le faire facilement, de reconditionner des ordinateurs facilement, simplement, rapidement. Et voilà comment c'est né la campagne de réemploi informatique.
D'accord.
Lancée par Emma Buntus et des biens faciles.
D'accord. Et alors, j'avais compris plus ou moins en antenne qu'il y avait eu aussi des gens qui avaient mis les mains dans le cambouis.
Pour ah, largement.
Et notamment pour faciliter ça avec une clé USB, avec la mise en place d'une clé USB. Et je pense que ça, c'est plus du côté d'Amaury que...
Alors en fait, la technique vient de Patrick d'Emma Buntus,
ouais,
qui utilisait sa technique. Mais comme il a libéré sa technique et qu'il nous, en gros, il nous l'a donné, il l'a donné à tout le monde.
Ouais.
Eh bien, les tests ont pu commencer et c'est là qu'Amaury, lui, a travaillé comme un fou, a fait des tests dans tous les sens, a fait des vidéos de présentation et mais ça, je vais lui laisser en parler.
Oui.
Et aussi le site tugalère.com avec par l'intermédiaire de Ange des Ténèbres.
Oui.
Salut à toi, qui a beaucoup travaillé aussi sur la clé, fait plein de tests, et aussi Frafra, le développeur de Multisystème. Voilà, toutes ces personnes-là se sont mises ensemble, ont beaucoup travaillé, et moi j'ai posté deux trois trucs pour animer un peu, et ouais, puis voilà. Et c'est comme ça qu'est né le projet.
D'accord.
Et qu'est arrivé le projet de reconditionnement informatique.
D'accord.
Au niveau technique, c'est vraiment Amaury qui a fait le boulot, effectivement.
Oh.
Ah bon, on va le laisser. Alors moi,
non,
je
faut être honnête deux secondes. Quand j'ai lancé, en fait, on a lancé la campagne et moi, pendant trois semaines, j'étais incapable de pondre un clone. Donc, je veux dire, c'est effectivement Amaury qui a fait tous les tests avec Ange des Ténèbres et qui ont bossé comme des fous sur les tests.
Quoi, parce que tu dis, je suppose que cette clé, Patrick l'avait déjà lancée.
Et oui, mais avec son script à lui uniquement et sur ses machines en lot. Mais il n'avait jamais testé sur des machines UEFI par exemple, ou sur plein de vieilles machines ou de nouvelles machines que Amaury peut avoir lui. Donc ça a multiplié, je sais pas par combien en fait, le nombre de tests possibles, ne serait-ce que par les configurations différentes qui étaient à disposition.
D'accord. Ouais. Donc là, c'est je comprends mieux maintenant. Et donc Amaury, comment tu t'es dépatouillé de ton souci de d'architecture, on va dire, de PC?
Mais en fait, attends, je vais reprendre un peu.
Oui.
Moi, pour expliquer un peu comment j'ai intégré le collectif, en fait.
Oui.
Parce que moi, en réalité, ça ne fait pas longtemps que j'ai intégré le collectif. Je pense que ça a dû être fin 2019. Donc en fait, moi, ma grande passion, c'est le libre au travers d'une chaîne YouTube, d'un blog, d'une page Facebook, et régulièrement, de temps en temps, je parlais du collectif et du système Emma Buntus, donc au travers de vidéos,
ouais.
Et jusqu'au jour où Patrick m'a laissé un message en dessous d'une vidéo, on a commencé à échanger des commentaires, et je lui ai dit que, voilà, j'aimerais bien faire plus, j'aimerais bien faire du concret. Et de fil en aiguille, ben, il m'a dit, ben, rejoins-nous sur le GitLab. Donc petit à petit, ben voilà, on a échangé sur GitLab. Et là-dessus, j'en perds le fil de mes idées. oui, voilà, donc j'ai commencé à fréquenter plus l'équipe. Et un jour, de but en blanc, Patrick m'a contacté, m'a dit, ben voilà, puisque tu veux faire du concret, tu veux t'investir, écoute, j'ai été contacté par une société en Belgique, sur Andenne. Est-ce que ça t'intéresse de récupérer de l'eau? Ben, je dis oui, pourquoi pas. Et voilà, j'ai été chercher de l'eau, je l'ai ramené. Je l'ai reconditionné, mais comme un peu tout le monde ferait. Donc j'ai récupéré une image ISO d'Emma Buntus et j'ai juste installé. Mais je savais très bien qu'existait une technique. Patrick m'en avait déjà parlé. Et je lui ai dit, écoute Patrick, je sais que tu utilises une technique de reconditionnement rapide, tu ne voudrais pas m'expliquer comment procéder? Et un jour, on s'est calé ensemble en visio, et il m'a montré la technique. Et c'est à peu près à ce moment-là que ARP est devenu président, donc chez Debian Facile. Mmh. Et mais voilà, moi je voulais m'investir plus, faire du concret. Donc Arnaud, lui, avait dit ouvertement qu'il aimerait bien se rapprocher des Mabuntu, mais moi aussi. Mais voilà, de fil en aiguille, tout s'est emboîté. Mmh. Et voilà, et vu que moi j'ai voilà, je diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux, donc vous pensez bien que dès que j'ai eu la technique en main, ben, voilà, j'ai commencé à en parler en vidéo, et c'est ça aussi que Patrick a dû l'améliorer, parce qu'il a il a commencé à avoir des retours d'utilisateurs. Oui, mais est-ce que ça marche pour ça? Est-ce qu'on peut faire ainsi? Ah ben non, attends, je faisais les retours à Patrick, et de là il a vraiment commencé à ben voilà, à améliorer les scripts. Mmh. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec avec cet outil, on peut reconditionner. Ben, écoutez, moi, je vais dire, c'est peut-être prétentieux, mais toutes les machines qui sont passées entre mes mains, ben, j'ai un sans faute.
Alors, toutes tes machines, tu te fixes une limite, tu te fixes une architecture, tu te fixes non. quoi
32. Pas de Mac. Oui, pas de Mac.
Et pourquoi pas de Mac? C'est plus par conviction c'est... ou c'est non, par non. contrainte technique?
Ben c'est une autre architecture déjà.
Ouais.
Donc nous donc 32 64 64 FI mm-hmm. et mais Mac ben, je sais pas, moi je suis pas spécialiste de Mac. Mais
non, l'UEFI de Mac est super chiant à gérer. Voilà. Vraiment. Mm-hmm. Déjà installer un Linux, ça se fait, bon voilà, mais en plus faut avouer, il y a assez peu de dons de Mac en reconditionnement. Voilà.
Ouais. Et puis
la plupart du temps, les gens filent du PC, ils filent pas du Mac. Hein. Mmh.
C'est la galère.
Mais est-ce que tu récupères, tu reboostes un peu aussi quand tu peux rajouter des barrettes de RAM ou...
Non, alors, si moi, voilà, mais j'ai encore été tantôt, j'ai eu deux laptops. Mmh. Donc on m'a contacté. Parce qu'en plus, voilà, moi je fais ça, donc c'est mon boulot. Ouais. Mais en plus, maintenant, j'ai une deuxième casquette. Je fais ça pour le collectif. Donc, faut bien que je fasse la part des choses. Et voilà, la personne qui m'a sonné, j'ai dit, oui, mais attendez, c'est pour, mais j'ai vu votre vidéo, le don pour le collectif. Ah, d'accord, pour le collectif. Donc, j'ai récupéré les deux laptops. Ils sont là. Ils ont l'air potables, mais un peu limités au niveau de la RAM. Mais voilà, maintenant, si je sais, si j'ai les pièces, je le ferai, j'améliorerai. Comme par exemple, je vais récupérer un lot de desktop. Ouais. Si j'ai cinq desktop complets et un sixième, bah, il manque un écran, un clavier. Si je sais le mettre, je le mettrai. Voilà. Alors, si je ne sais pas, c'est sur le côté. Parce qu'un ordi part toujours complet.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Ouais, ok. Et qu'est-ce que j'ai dire? Ouais, donc tu te fixes pas une limite au niveau, comme parce que bon, il y a un moment donné
si.
Où il y a une limite technique.
Si.
Il y a une limite dans le sens où c'est vraiment ça devient une brique, quoi. Là,
si.
C'est plus possible.
Patrick s'était fixé, c'est énorme, hein, en temps informatique, il s'était fixé 15 ans. 15 ans.
Waouh.
Ça veut dire qu'on remonte en 2005. Et moi, je lui ai dit une fois, je dis non, 2008, 9, c'est bien. Pourquoi? On arrive au corps du duo. Core 2 quad, ça c'est nickel, ça fonctionne très bien. Donc sur les desktops, sur les mobiles, ce sera des Intel Centrino. Et ben voilà, là on en fait encore quelque chose. Ouais. Avant quoi? Oui, je pourrais le reconditionner, mais ce qu'il ne faut pas oublier, le reconditionner c'est bien, qu'il s'allume c'est bien, mais il faut l'utiliser après.
Ouais, c'est ça.
Donc moi, enfin le but c'est de donner une machine qui démarre, qui fonctionne bien et qu'on puisse utiliser.
D'accord, ok. Et alors je vais peut-être jouer l'avocat du diable en posant cette question. Et j'espère que mes autres co-animateurs vont poser des questions parce que j'ai l'impression de monopoliser le temps de parole. Mais
tu monopolises.
j'espère que la question va pas être un peu embêtante. Mais qu'est-ce que tu apportes de plus, par exemple, à des distros tels que Xubuntu, l'Ubuntu, tu vois, ou justement c'est des distros qui sont censés être pour des petites architectures ou quoi? Est-ce que c'est parce que toi tu vas peut-être pouvoir faire booter ça et installer ça plus facilement que les autres ISO, tu vois, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus par rapport à eux? Ou du moins même Scarno peut apporter de plus par la
clé. Mais en fait, c'est... Alors en fait, quand on a lancé la campagne de réemploi, au départ, évidemment, c'était Mabuntu qui était prioritaire pour le reconditionnement.
Ouais.
On s'est mis d'accord, bien sûr, pour que Debian puisse aussi être reconditionné facilement, enfin qu'on puisse reconditionner avec une Debian. Donc la
Debian
communauté
classique.
Alors pas uniquement. Ce qui se passe, c'est que sur Debian facile, nous on développe une distribution facilitante. C'est juste une dérivée, mais alors c'est pas une vraie dérivée. C'est une Debian sur laquelle on a ajouté une petite configuration afin de faciliter et une grosse documentation.
Ouais.
Avec le cahier du débutant que je rédige et le manuel de l'utilisateur qui permet de prendre.
C'est peut-être le plus utile pour quelqu'un qui veut se lancer dans Linux de manière générale.
Alors, j'avoue que ça, c'est, enfin, d'une manière très personnelle, moi, c'est le projet dont je suis le plus fier à titre perso, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a 300 pages de doc, en français, en anglais, propre. L'anglais a été traduit par un membre du collectif Emabuntus, d'ailleurs. Merci Yves. Quand on a fait la campagne de réemploi, les deux distributions qui étaient proposées au départ, c'était effectivement Emabuntus et Debian Facile. Pourquoi ces deux-là? Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est deux distributions qui offrent, soyons prétentieux jusqu'au bout, l'alpha et l'oméga de ce que peut faire Linux.
D'accord.
C'est-à-dire, bien sûr, on a Emabuntus qui était au départ une distribution qui doit pouvoir être utilisée hors ligne. Parce qu'elle est envoyée en Afrique, où effectivement, là, les connexions Internet sont inexistantes ou extrêmement instables, et où pour pouvoir équiper des écoles, il faut que les ordi aient à l'intérieur tout ce dont ils ont besoin, qu'ils aient pas besoin de faire ni mise à jour, ni d'aller chercher de la documentation, ni d'aller chercher des données de culture libre, ce qui est inclus aussi dans la campagne de reconditionnement, j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure.
Oui.
Mais bref. Donc, il y avait cette grosse distribution qui contient effectivement beaucoup de logiciels, qui est lourde par son poids, mais qui est, nous consomme assez peu de RAM au démarrage, parce qu'on est de l'ordre de 300 à 400 mégas de RAM au lancement, donc c'est largement acceptable. Ah oui, c'est largement acceptable. En plus, Patrick, lui, a fait un boulot au niveau de l'optimisation des logiciels, justement. Par exemple, il y a Firefox. Évidemment, quand les machines peuvent le supporter, il n'y a pas de problème, mais il a aussi intégré Falcon, qui est beaucoup plus léger. Alors, moi, sur certains... Ouais, alors il fonctionne très très bien. Hein. Vraiment sur les. Il a mis en plus LXQT en second bureau, accessible. Donc soit on reste sur XFCE avec Firefox si la machine le permet, soit si une machine est un petit peu poussive, on se met en bureau et LXQT, on utilise Falcon. Et à part quelques sites qui passent un peu mal, ça donne vraiment une navigation fluide, une utilisation agréable. Et donc, il y avait donc cette distribution, Emabuntus, qui est, c'est vrai, gavé de logiciels. Non, mais c'est vrai.
C'est un des reproches qu'on fait souvent. Mais bon.
Mais c'est, pour moi, c'est pas un reproche.
Bon
pour
proche,
mais alors, pour moi, c'est fabuleux, parce que moi, je me souviens, quand j'ai découvert Linux la première fois, ça a été quoi mon premier réflexe? Me dire, je vais essayer, j'ai un navigateur Internet d'intégrer. Merde, il y en a 5 autres. Et je vais les essayer. Je vais voir un peu. Mais oui, c'est, je crois que tout Linuxien qui a commencé, il a commencé par tester différents logiciels. Alors quand une distribution est dédiée à des écoles, à de l'export, ou à faire découvrir ne serait-ce que l'univers informatique à des villages en Afrique complètement paumés, je pense sincèrement que d'avoir autant de logiciels, eh ben, c'est une bonne chose. Parce que ça permet aux gens, même à l'autre bout du monde, de pouvoir choisir sans qu'on leur impose quoi que ce soit. Et je crois que c'est une des forces du libre quand même de proposer et pas d'imposer. Et ça, Emabuntus l'a tout à fait compris, Patrick l'a tout à fait compris, et donc à chaque fois qu'il peut rajouter un logiciel, si c'est pertinent, il le fait. Alors ça paraît bizarre parce que c'est la course au plus léger tout le temps, mais lui, non, il s'en fout. S'il faut deux navigateurs parce que c'est mieux, eh ben il en met deux.
Mais...
S'il faut deux éditeurs de texte, c'est mieux, eh ben il en met deux. Et ça fonctionne très bien. Mmh. Et de l'autre côté, on a l'ISO de Debian Facile, qui elle est une ISO qui tourne sous XFCE aussi, mais qui est ultra minimale. C'est-à-dire que
c'est l'opposé en fait.
Exactement. Et donc ces deux distributions ensemble permettent de reconditionner du matériel pour tout public, vraiment. C'est-à-dire que quand on va le faire pour des assos ou pour des écoles, effectivement, là, ça va être Emabuntus parce qu'en plus, ils mettent dedans des données de culture libre avec le Wikipédia en ligne, avec le LibreOffice pour l'édition pour les enfants, l'édition pour école. Enfin, c'est vraiment gavé de trucs quoi. L'ISO, elle pèse 4 gigas avec les, il y a 4 gigas de données de culture libre, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est juste la vue. Alors que l'ISO de Debian Facile, elle pèse 2 gigas, il y a le strict minimum, une bonne doc, mais, qui pèse pas des tonnes non plus. Et après, elle est utilisable, mais il faut une connexion Internet. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, sinon on s'emmerde avec une distro Linux si on a Internet. Alors qu'avec Emabuntu, je peux vous assurer que même sans Internet, on a de quoi faire.
D'accord.
Mais tous les X temps, quand même, ce que fait Patrick, il a épuré un peu l'ISO. Donc il accueille beaucoup de nouveaux logiciels, mais il regarde aussi à voilà à ce qui est obsolète, ce qui n'est plus trop maintenu, et on, il fait du tri, hein, parce que le but c'est aussi voilà c'est de ne pas dépasser, d'essayer de ne pas dépasser les fameux 4 gigas. Il a encore fait dernièrement, il a dit ça c'est obsolète, ça c'est obsolète, et voilà.
Oui, on remplace d'autres logiciels aussi. Non, non, là-dessus il y a une évolution permanente entre chaque release. Hein.
Ouais, et puis je suppose qu'aussi, par exemple, il y a le pack de base, je veux dire, t'as quand même du LibreOffice.
Ah bah ça, c'est obligatoire, de voilà, toute façon, faut être honnête. Hein. Et puis, pour l'interopérabilité avec les autres systèmes d'exploitation, tu peux pas coller que du numérique à BeWorld. C'est sympa, mais un moment... Pardon,
vas-y. Ah, vas-y, Morgan. Il me semble que tu gères la distribution Debian Facile ISO, là, non?
Oui.
Et tu participes aussi à l'ISO des Nice Ubuntu?
En tant que conseil, oui, de temps en temps, et je fais deux, trois petits trucs, mais c'est Patrick qui développe.
Mais c'est un boss, hein. C'est un boss.
Ouais, c'est le président, hein.
Ah, non, mais quand il parle du boss, il parle de Patrick. Non, c'est Patrick qui développe Emma Ubuntu. Ah, oui. Et puis, je suis pas tout seul à développer la FISO. Il y a les membres de Debian Facile aussi qui sont là.
Et t'essayes d'emporter cette philosophie sur ton ISO? Tu la connais pas. Et t'essayes d'importer cette philosophie que quand t'installes ton ISO, bah tu peux passer un peu de temps dessus, genre installer un petit jeu d'échecs, installer un truc comme ça.
C'est vrai qu'on pourrait. Alors on a
un jeu d'échecs, ça bouffe rien en plus.
C'est vrai que ça bouffe rien. Alors, mais alors ça, tu vois, j'ai pas du tout pensé à cet axe de développement, justement parce que Emabuntu existe. Donc je me dis que si vraiment des gens veulent de la variété, ils iront plus vers Emabuntu, s'ils ont plus ce besoin-là. Mais ouais, c'est vrai qu'on pourrait. On pourrait ouvrir une branche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le net et une espèce de section, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait hors ligne, ouais. Ça pourrait être marrant avec un peu de. On pourrait mettre du dictionnaire, par exemple, de chez Framasoft. Tu sais le bouquin, la BD de. Ah zut, j'ai oublié son nom. Pardon. Enfin, je sais pas si vous connaissez.
Moi, je la connais pas. Non, je la connais pas.
Le dictionnaire, c'est le dictionnaire, c'est GEEKTIO2NERD.
Je connaissais pas.
Et
non plus.
Ah, c'est une fabuleuse BD. Vous allez vous fendre la gueule, qui raconte les histoires des geeks, quoi. Et c'est vrai que ça on pourrait la mettre, par exemple, ça pourrait être sympa. Voilà, je lui demande d'ailleurs. Enfin bref. Mais oui, pourquoi pas, ouais, rajouter des trucs, et qu'est-ce qu'on fait quand on est hors ligne? C'est une bonne idée, ça. donc je le note.
sur la liste des 5000,
dans la pub liste de Paris.
Ouais.
Et un truc de plus.
J'ai une petite question aussi sur.
C'est chouette.
L'objectif de Debian Facile, enfin la distribution, c'est de mettre un pied à l'étrier pour le nouvel utilisateur, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est une distro facilitante. C'est en fait ce qu'on avait comme objectif avec Andy Linux au départ, et c'est vrai que ça a un peu dévié vers le côté plus Andy que Linux, et Andy dans le sens handicapé, et c'est dommage, parce que il y a d'excellentes distributions qui sont spécialisées là-dedans et qui font bien leur boulot, et moi je suis pas ni légitime ni compétent pour faire ce genre de truc. Donc on a plus opté vers l'option comme tu dis, mettre le pied à l'étrier à l'utilisateur, lui montrer que il a une interface claire devant lui, que il peut facilement gérer son système, le customiser, voilà, installer des logiciels, mais sans le comment dire, sans être vilain. La froideur de Debian, on va dire.
D'accord. Ouais. Mais donc vos utilisateurs, c'est des grands débutants en Linux.
Normalement, oui. Ouais. Mais généralement, ils y restent, en fait.
Mmh. Ouais, sachant que, enfin, je pense que toi, t'es pareil. Enfin, nous, on s'est lancé sur une Ubuntu, et puis après, oui, on a trouvé aussi, que ça partait un petit peu dans tous les sens, et on s'est dit, bon, on va revenir à la source, quoi.
Ben, alors, en fait, je t'avoue que moi, je suis passé d'Ubuntu à Debian pour une autre raison. À l'époque, j'ai découvert Ubuntu en 2006, avec mon premier ordi. Ouais. Juste après, il y a un mec qui s'appelait Cornominal, et qui bossait sur Ubuntu aussi, qui développait, et qui a ouvert son blog, et qui a fait une distro qui s'appelait à l'époque Crunchbang Linux.
Vous
connaissez. Mm-hmm. C'est quand même, voilà. Et donc, c'était en décembre 2006. Sur son blog, il a commencé à poster des trucs. On était 5-6 à commenter là-dessus. Il y avait un Suisse, un Italien, un Russe. Enfin, c'était marrant parce que, voilà, il y avait juste, voilà, une demi-douzaine de clampins. Il a dit, ouais, allez, il a commencé à faire sa dérivée avec OpenBox, Ubuntu OpenBox. Et il a lancé la première CrunchBang Linux qui, en 2007. Et elle était basée sur Ubuntu. Et c'est lui qui est passé sur Debian. Quand il est passé sur Debian, il m'a appris à me servir de Live Build. Et c'est depuis, en 2011, en fait, que je me suis amusé à faire des distros. Okay. Mais c'est pas parce qu'Ubuntu est parti en vrille que je suis parti de Ubuntu. Même si je suis d'accord avec ça.
D'accord. C'était le côté pouvoir construire sa distro tranquillement à partir de la source, quoi.
Ben non, mais je trouvais ça extraordinaire, des fichiers textes lisibles avec lesquels on peut configurer son truc. J'ai découvert Ubuntu et c'était clicophile, quoi. Donc, on cliquait partout, c'était rigolo. Et puis, non, mais c'est vrai. Et quand je me suis mis à OpenBox, je trouvais ça fabuleux. Et en fait, c'est ce qui m'a séduit dans Linux, c'est il y a un mode d'emploi et il fonctionne. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que dans la vie, il n'y a aucun mode d'emploi qui fonctionne. Hein. Enfin, on le voit surtout en ce moment. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a un mode d'emploi, tu peux être sûr, il y a un truc qui vient foutre le while dedans. Donc, mais en informatique et avec Linux, il y a un mode d'emploi. Tu lis le man, oh putain, tu fais ce qu'il dit, ça fonctionne. Et moi, j'ai trouvé ça absolument magique.
Mais il y a un terrible mode d'emploi, hein. C'est les cahiers de débutants.
Oui, bon alors ça après, ouais, je suis bien amusé. Mais
c'est toi qui le fais, le mode d'emploi. Là.
Mais c'est vrai que ouais, ça m'a beaucoup amusé à faire. Je m'amuse beaucoup à rédiger les cahiers du débutant.
Mais c'est un bon travail, franchement.
J'aime beaucoup ça. Mais voilà, à la base, ça vient de Core Nominal en fait. Moi, si je suis passé sur Debian, voilà, le développeur de CrunchBang Linux, le premier.
J'ai vu dans le cahier des débutants que tu.
On l'a perdu, Morgane. Les débutants,
excuse-moi, je disais que j'ai lu dans ton cahier des débutants que si tu savais pas, fallait choisir 32 bits. Enfin, tu conseillais toujours d'installer la version 32 bits.
Et
c'est
oui.
Truc qui est daté ou c'est vraiment une opinion que t'affirmes haut et fort?
Non, mais je pense que excuse-moi, je dis peut-être une bêtise et je te laisserai le droit de réponse après. Non, c'est parce que je pense que comme Amaury disait, comme c'est des vieilles infrastructures d'architecture, ça peut paraître logique de tourner sur les 32 bits.
Non, en fait, c'est parce que pour quelqu'un qui ne sait pas, tout le monde a l'habitude 32 et 64 bits. On croit tous que c'est évident. Pas du tout, c'est pas évident du tout. Hein. Il y a plein de gens, si tu leur dis 32 bits ou 64 bits, ils savent même pas ce que ça veut dire, quoi.
Donc, tu m'aurais dit ça il y a 4-5 ans, je sais pas. Hein.
Mais non, mais voilà. Mais c'est vraiment un truc qui nous paraît à nous très rapidement évident, alors que c'est pas du tout évident. Et donc quand les gens commencent le libre, moi je veux surtout pas qu'ils se retrouvent à récupérer un ordi qu'ils ont récupéré de leur père, de leur sœur, de leur machin, ils savent pas ce que c'est et tout, ils glissent une galette dedans ou une clé USB. J'ai aucune envie que le premier message qu'ils aient de Linux ce soit un message d'erreur. C'est pas le but. Le but des cahiers du débutant, c'est que quoi qu'il se passe, le mec, s'il télécharge quelque chose, même s'il prend le minimal du minimal qui est conseillé, ça va booter, il va avoir une image, il va pouvoir faire quelque chose avec. Pour moi, c'est ça l'objectif.
Eh ben, t'enchaînes sur un très bon sujet. Alors, qu'est-ce que tu conseilles comme config mini pour la distro?
Ouf.
Alors, j'ai un exemple. Il y a une semaine, il y a un mec qui m'a contacté parce qu'il voulait faire un don d'ordinateur. Il a récupéré un IBM ThinkPad T41, le vénérable, comme on appelle. Ouais, voilà. c'est du vénérable.
Et entre la brique et pas grand chose, non?
Alors, effectivement. Sauf que moi, à la maison, j'ai un T61 sur lequel mes gamins jouent. J'ai compris. Mais alors, ils le font turbiner. Il y a aucun problème depuis des années.
Et t'arrives à supporter le PC ou j'ai compris? Bienvenue.
Écoute, non mais en fait c'est mon métier de base. Amaury, il a un vrai métier. Moi je suis père au foyer. Donc comme je suis père au foyer et que je fais l'école à la maison en plus à mes enfants.
D'accord. T'es prof.
Ouais.
Fantastique.
Bah, en fait ça fait 7 ans maintenant ouais, que je fais l'école à la maison avec mes enfants. Mon grand vient de réussir son brevet d'ailleurs. Donc comme quoi l'école à la maison sans compétition, sans notes. Jamais aucun contrôle à se prendre la tronche pendant des heures, ça fait qu'un gamin peut avoir son brevet sans problème. Avec j'ai compris aussi, oui. Il a commencé avec j'ai compris d'ailleurs.
D'accord.
Allô?
Ouais.
Mmh. Ouais. En regardant un film qui s'appelle Le Pianiste, il y a un papa, une maman qui disait un truc, une mère ne devrait jamais avoir à apprendre à son enfant à jouer au piano. Et genre toujours passer par un professeur pour faire apprendre aux enfants, par quelqu'un d'extérieur.
C'est les... Ouais, c'est les deux grands, c'est les deux grandes théories sur l'éducation. Et c'est vrai que si on peut parler d'IEF deux secondes, je pense que effectivement, être pédagogue pour ses propres enfants, c'est un angle extrêmement délicat à aborder, parce qu'il faut essayer de se détacher émotionnellement de ce qu'on apprend à ces mômes. Généralement, quand on a des gamins, quand on leur apprend quelque chose, quand ils comprennent pas, ça nous agace et ça nous énerve. Alors que quand on doit les instruire et non pas les éduquer, eh ben il faut pas s'énerver, parce que nous tous, en plus en tant que geek, on devrait le comprendre mieux que n'importe qui. Toutes les premières fois sont merdiques, la plupart du temps. Je veux dire, quand ça marche la première fois, c'est quand même un gros coup de peau, d'accord. Quand on essaye un truc la première fois, quoi que ce soit, à n'importe quel âge, quand ça marche, c'est vraiment de la chance. Donc les gamins, pour eux, tout est une première fois. À partir du moment où on arrive à accepter ça, ce simple fait, ben on s'énerve plus. On peut pas s'énerver, quoi. Donc, quand on s'énerve pas, ben la pédagogie prend le pas sur le côté « c'est mon enfant, je veux qu'il sache ». D'un seul coup, on devient un instructeur qui dit « bah tiens, regarde, je te montre, et ce que tu trouves chouette parce que moi je le sais et toi tu le sais pas, ben dans une heure, tu seras comme moi. » Et comme ça, on le saura tous les deux. Et voilà. Et j'ai retrouvé ça aussi dans le libre, hein, d'ailleurs, hein, c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que quand on m'a présenté le libre, c'est Dype, merci à toi, qui m'a filé mon premier Ubuntu, il m'a dit, le libre, voilà ce que c'est gratuit, c'est libre, tu prends ce que tu veux et t'en fais ce que tu veux. Une fois que t'as appris, tu redonnes. Point. C'est comme ça qu'il m'a présenté le truc, et c'est ce que je fais depuis. Et avec les gamins, c'est pareil en IEF, quoi. Tout ce que tu sais, c'est quand même génial de se dire que tout ce que tu sais, toi, tu vas pouvoir l'apprendre à tes mômes. Et eux, ils sauront tout ce qu'ils savent, eux, plus tout ce que tu sais, toi. C'est trop cool.
C'est une belle façon de voir les choses et de faire.
Ouais. Enfin, après, j'ai l'opportunité de le faire, donc je le fais. Mais voilà, quoi.
T'aurais dû passer à la télé pendant le confinement.
Et ben écoute,
j'ai fait un article.
Ben j'ai fait un article en fait au moment du premier confinement. J'ai fait un article pour expliquer comment moi je fonctionnais sur mon blog. J'ai voilà un espèce de mini mode d'emploi. Comment on peut instruire ses enfants en famille sans foutre sa vie en l'air d'adulte, ouais, parce qu'on a aussi une vie d'adulte. Et voilà. Et en leur laissant leur vie de gosse aussi de l'autre côté. Surtout pendant le confinement, c'était pas facile, mais pour nous, c'est assez simple, quoi. Sauf qu'on sort pas, quoi. Mais sinon, c'est assez simple. Donc, j'ai essayé de faire un article et je me suis aperçu, en fait, que c'était assez horrible, d'expliquer ça aussi trivialement, aussi froidement. Parce que les autres parents, ils ont pas choisi de faire l'école à la maison.
Ouais. Je vois ce que tu vois, veux dire. Ouais.
Les gens, quand ils décident d'avoir des enfants, moi, quand j'ai décidé d'avoir des enfants avec ma femme, on avait déjà l'idée et l'envie de faire l'école à la maison, avant même que les enfants arrivent. Tu veux, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Et alors que la plupart des gens, quand ils parlent de faire des enfants, ils se disent pas instantanément, bon bah, on va tous les deux arrêter de bosser, faire l'école à la maison, c'est pas leur première réflexe.
Non.
Mais bien sûr que non. Mais parce que on n'a pas tous envie d'être prof, éducateur, nounou, puéricultrice, infirmier, psy. Enfin, je veux dire, t'es tout ça en même temps, tout le temps, H24, et t'es H24 avec tes gosses et ta femme. Donc, c'est une vie assez bizarre et que peu de gens ont choisi, en fait. Et là, pendant le confinement, on a obligé les gens, en fait, à vivre comme nous.
Ouais.
Et même si nous, on l'a choisi, on est hyper heureux de vivre comme ça et nos enfants sont heureux et ça va très bien. Je sais très bien que pour d'autres, ça a été une souffrance, quoi.
Parce que ce n'est pas un choix.
Mais
c'est imposé.
Exactement.
Ah, c'est ça qui...
C'est pas qu'ils aiment pas leur gosse, ou qu'ils aiment pas leurs parents, ou qu'ils aiment pas leur femme, ou que machin. C'est qu'à la base, quand ils se sont mariés, ou à la base, quand ils ont fait des gosses, dans le contrat de base, il n'y avait pas marqué, et en plus, tu vas te les taper H24, quoi. Donc, mais non, mais c'est vrai. Donc, quand j'ai fait mon article la première fois, je me suis dit, je l'ai fait, très bien. Pour ceux que ça intéresse, très bien, mais je vais pas non plus faire du prosélytisme parce que c'est un vrai choix de vie et ça implique tellement de choses qui ont été foutues en l'air pendant le confinement et qui vont être refoutues en l'air là à moitié.
Ouais.
Pour des millions de familles qui ont vraiment pas choisi ça, quoi. Nous, on l'a choisi, on est heureux comme ça, mais je sais que enfin on est pas nombreux, quoi.
En même temps, ça, en France, ça on est 50 000. ça craint un peu ça, quand moi mon oncle il fait comme toi. Mais ça craint un peu ce que tu dis quand ta femme tu peux pas vivre tout le temps avec, comment tu vas faire pour la retraite? C'est genre c'est dur ce que tu dis oui, quand même.
Mais je sais que c'est dur ce que je dis, sauf que quand on se rencontre la plupart du temps et même quand on commence une vie de couple, je veux dire, on n'est jamais H24 ensemble. On fait des études, on attaque le boulot, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec ma femme, on n'était pas H24 ensemble. Sauf que quand on s'est rencontré, si elle a bossé avec moi, donc du coup on s'est retrouvé H24 ensemble tout de suite. Encore une fois, mais c'est très particulier. La plupart des couples, quand ils se rencontrent, quel que soit l'amour qu'ils puissent éprouver l'un pour l'autre, ils ont besoin. La plupart du temps, enfin, écoutez les gens qui sont autour de vous, ils ont besoin d'avoir des moments avec leurs potes, ils ont besoin d'avoir des moments seuls, etc.
Ah oui.
Ben voilà, c'est tout à fait naturel. Et je critique absolument pas ça, je juge absolument pas ça. C'est juste que moi, j'ai eu là un coup de peau énorme, j'ai rencontré une femme avec laquelle elle veut être avec moi tout le temps, moi je veux être avec elle tout le temps, et on veut être avec nos gosses. Et nos gosses sont bien avec nous. Je veux dire, j'ai pas non plus m'en excuser, ou enfin, vous voyez. Mais en revanche, je peux tout à fait comprendre que c'est pas du tout le choix des autres. Mais
il faut
l'optique des autres, quoi.
Il faut savoir se supporter.
C'est l'exception qui confirme la règle dans l'histoire, hein, parce que je dirais qu'il y a 95% des gens qui sont pas comme toi. Hein.
Mais je sais bien. Et mais en fait, j'ai mis une phrase en signature. Je suis désolé, je vais me citer, ça fait vraiment prétentieux, veuillez m'en excuser.
En tant que président, tu es président.
Mais en fait, il y a une phrase. Quand j'ai ouvert mon blog en 2011, j'avais balancé une phrase dans un de mes premiers articles qui disait « Nous sommes tous différents, c'est notre point commun ». Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu dis que moi, je représente 5% et que toi et les autres, vous représentez 95%, ben, je suis persuadé que si tu nous parles de ta vie, si tu nous dis comment ça se passe avec ta famille, avec tes amis, la façon dont tu vis, eh ben, vous allez être que 5% aussi, avoir ces caractéristiques. Ce que je veux dire, c'est que on fait jamais partie des 95%. On fait toujours partie des 5% ou des 2% ou des 1%. C'est juste qu'on ne sait pas, c'est tout. Mais c'est
bien. J'aime bien ce que tu dis.
Moi, j'aurais tourné ta phrase différent. J'aurais dit, à la fin, c'est notre richesse.
Alors, ça nous enrichit en plus, parce que de savoir qu'on est tous 1% de quelque chose, ou un millième, ou un millionième, ou ce que vous voulez, ou un milliardième,
pas trop
de quelque chose. Mais même si on est chacun seul, le simple fait de pouvoir se le dire, de le dire à l'autre et que l'autre le comprenne, c'est juste magique, quoi, quand on y pense. Si on réduit même au minimum de l'horrible solitude de l'individu, le simple fait de pouvoir en prendre conscience, le dire et le partager, mais ça y est, t'as gagné, quoi.
Mais cette petite phrase-là, là, tu l'as mis en signature aussi sur le forum, non? J'ai déjà vu cette signature-là sur le forum chez Bien Facile.
Ouais, elle est sur mon avatar, ouais.
Ah ouais, ok.
Non, mais le jour Arnaud, il est élu président, il mettra ça sur les caisses de 2 euros.
c'est ce que j'allais dire. T'as des projets pour les années à venir, parce que... C'est un président comme ça qu'il nous faut.
Ah ouais. Ouais, j'ai tout plein de projets pour les années à venir, ouais. Mais pour le livre surtout.
Bon, en tout cas, donc tu disais pour revenir au 32 bits, on va essayer de revenir sur le sujet.
Désolé, pardon.
Ah non, mais j'aime bien quand ça dérive. Hein, je vais te dire, nous, on a déjà fait les intros sur la bière pendant une demi-heure sur 2h30 d'enregistrement, donc tu sais. Là on est à 57 minutes, on est déjà dans le sujet principal, donc tu vois, on est bien.
Bon, d'accord.
Ouais, on est bien. Non, mais
on va bientôt commencer à se dire au revoir, mais.
mais
on a encore le temps.
Non, bah, non, non, c'est sur des trucs qui me passionnent, forcément.
20 minutes. Non, mais, par contre, ce que je veux poser comme question, je vais essayer de rebondir plus sur le, peut-être plus sur Amaury, parce qu'on l'entend pas beaucoup depuis tout à l'heure, la cible. En fait, parce que tu parlais d'école, tout ça, parce que ça, par rapport à Emma Bontous, moi, je me demande, bon, comment ça se passe pour la distribution des PC que tu reconditionnes? Est-ce qu'il y a une demande qui est faite ou, par le bouche à oreille, tu entends dire qu'il y aurait une personne qui aurait un besoin ou autre d'un PC, puis tu sais qu'elle n'est pas forcément dans les moyens de s'en acheter un? Mais,
tu sais, je le fais savoir aussi depuis peu. Donc depuis peu, je communique beaucoup. J'ai reçu ça en don, tu vois. Et quand je remets les dons, je le fais savoir aussi. Donc les gens, ils le voient ça. J'ai déjà été contacté. J'ai été contacté par une école, il y a une semaine, une école spécialisée qui me disait, nous, on n'a pas de matériel informatique. Si vous pouviez penser à nous, Ben ok, j'ai pris note. Et dès que je peux avoir un lot intéressant, voilà. Sinon, ben oui, c'est café associatif, école, les gens dans le besoin, tout simplement.
D'accord.
Mais donc, maintenant... jamais une entreprise...
Si, alors Patrick, il a des contacts avec des comités des comités d'entreprise ou ce genre de choses, avec des grosses structures, parce qu'il travaillait avant pour avec Emmaüs, il travaillait aussi toujours avec Emmaüs, donc il a un réseau, lui, beaucoup plus étendu que nous. Nous, on fait ça à l'humain, en gros, quoi. Alors, Amaury, lui...
Oui, parce que moi...
Mais ici, c'est dans le plus du côté don. C'est
ici, en Belgique...
qui va faire un don, c'est pas l'entreprise qui a besoin.
C'est nouveau, ici, en plus, en Belgique. Ça fait pas longtemps. Donc, en fait, je suis aux prémices. Je dois essayer de... Voilà, ici, en plus, c'est Mabuntu. En France, peut-être, mais en Belgique, on ne connaît pas. Je dois me battre. Parfois, pour obtenir des dons, je suis en concurrence avec, mais ici, des trucs bien connus. Oxfam, et voilà.
Donc, Oxfam, voilà.
Donc, mais ce qui fait ma force, c'est que moi, je prends, entre guillemets, je prends, oui, tout, et je donne Oxfam. Enfin, c'est pour ne citer qu'eux, mais il y en a des tas, mais ils veulent pas tout prendre, et s'ils prennent, ils revendent. Même si ce n'est qu'un billet de 50 euros, c'est 50 euros.
Ouais, parce que c'est pas, non, mais c'est un peu, alors, j'aime pas dire ce terme-là, surtout dans le milieu associatif, mais c'est dans l'optique de faire un don, c'est plus mercantile. Toi, tu fais ça par dévotion.
Mais écoute, je n'ai jamais supporté de voir jeter des machines. Ça peut arriver, mais alors, elle doit être, voilà, tu sais plus rien en faire. Quand je vois ce qui est gaspillé, donc, depuis toujours, moi, récupérer, j'ai essayé de remettre en route. Si je pouvais faire plaisir, je le faisais. Donc, ben, c'est bien tombé. Voilà, on s'est bien trouvé, en fait. Donc, Mabuntu, et c'est ça que c'est, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, et voilà.
Alors, par contre, pour revenir à ça, parce que je sais que c'est toi qui l'as fait, on en a parlé lors des différents échanges qu'on a eu à l'enregistrement. Comment t'es arrivé à installer une distro Linux en Linux 40?
La fameuse question.
Parce que là, et en plus,
mais j'ai triché, tout se fait au montage.
Tu m'as dit qu'il faut le faire mieux.
Oh, tout se fait au montage, t'as rien compris.
Ah
non.
T'en as eu pour 3 heures, c'est ça.
Mais voilà, mais c'est notre fameuse clé, hein, la fameuse clé magique. On ne peut plus simple que ça. Non, mais en fait, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir
Alors, attends. Alors, on va faire. Je vais
parce que je peux parler technique ou très simple.
Je viens chez toi ou tu m'envoies une clé. Moi, je veux l'installer. Comment je fais?
Mais justement, il y a une documentation écrite, il y a des vidéos qu'on a sorties. Donc, tu pourrais te faire ta propre clé. Avec un peu de patience, une bonne clé, voilà, il y a moyen que tu te fasses une clé. D'ailleurs, c'est prévu, c'est fait pour ça. C'est fait pour que quasi tout le monde puisse se faire une clé.
Bah non, mais en fait, les vidéos qu'il a fait à Maury, elles sont quasi en temps réel. Alors, effectivement, c'est impressionnant, 1 minute 40 quand il installe. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est par exemple, une vidéo de 1 heure. Alors, 1 heure, on se dit, merde, c'est long. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on regarde un tuto sur Internet, quand on voit 1 heure, on se dit, ah non, on regarde pas, c'est trop long. Et en fait, c'est parce que c'est en temps réel. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe qui, quand je dis n'importe qui, c'est quelqu'un qui sait ouvrir un terminal et qui sait taper une ligne. Voilà. C'est aussi simple que ça, et cliquer en suivant des consignes. Le mec, il suit la vidéo, il fait pareil à côté, la vidéo dure 1 heure, 1 heure après, il a sa clé. C'est aussi simple que ça.
Parce que le but, tu sais...
Ah ouais, c'est expliqué pas à pas. Amaury, il l'a expliqué pas à pas, exactement comme si toi, t'étais devant ton écran, et il le fait pas... il le fait avec sa caméra, quoi. Tu vois, ses mains qui tapent et tout, tu vois.
Parce que le but...
Ah non, mais sérieux, moi,
c'est
un peu fait, hein.
C'est que tout le monde, même la personne qui n'a que très peu de connaissances, voire, allez, pas du tout, puisse refaire ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que les vidéos sont longues. Parce que c'est voulu. J'explique calmement, simplement les choses. Je montre tout, je ne cache rien.
Pourquoi privilégier le format vidéo plutôt que texte pour ce genre, justement, de choses qui sont plutôt longues?
Ah, mais il y a les deux.
Ah oui.
Ah oui, parce que Harp, il est balèze, hein. Il te rédige une documentation en 5 minutes, hein.
Mais non, mais je l'ai fait en même temps que je le faisais. En fait, c'est vrai que quand on a parlé du projet de reconditionnement, en même temps qu'Amaury, lui, faisait sa vidéo, ce qui prend mine de rien du temps parce qu'il faut filmer, monter, etc. Bref, nous on en parlait et moi j'ai rédigé la documentation en même temps qu'on discutait du processus quoi. Donc du coup quand on a fini de discuter, bah la documentation était prête forcément. Mais donc oui, il y a une documentation écrite qui suffit de suivre aussi. Alors les vidéos sont pas du tout obligatoires, mais l'avantage avec la vidéo, c'est que le problème de la documentation écrite, c'est qu'il y a pas de retour, tout simplement. On connaît tous. Moi non plus, j'aime pas trop les tutos vidéo, mais j'en fais pour des biens faciles. Et Amaury en fait pour sa chaîne YouTube. Ça a quand même l'avantage fabuleux. Le mec regarde. Ah bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Il le fait. Ah bah oui, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Mine de rien. Mais non, mais c'est vrai. C'est un atout. C'est un espèce d'atout confiance évident, quoi.
Puis ouais, il y a vraiment une la playlist, c'est vraiment voilà, elle s'allonge, c'est vraiment, elle est complète, elle commence à être vraiment bien complète. J'ai commencé juste par montrer mais voilà, moins de 3 minutes pour reconditionner une machine, moins de 2 minutes, et mais voilà, et on exprès, mais c'était voulu, hein, on l'a fait exprès de sortir ces deux vidéos là, de mettre un peu l'eau à la bouche, on a laissé passer un peu de temps, et puis là on a dit ben voilà, on va vous montrer comment on doit faire, comment vous devez faire. Donc il y a une vidéo, je montrais comment réaliser la clé du début à la fin. Ben oui, ça dure 1 heure, mais c'est voulu. Mais après je me suis rendu compte, oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise, qui eux, ouais, ils peuvent survoler, ils comprendront. Donc j'ai réalisé une deuxième vidéo en 10 minutes, ils pouvaient se faire une clé. Après j'ai sorti une autre vidéo, comment personnaliser le thème, parce qu'il y a eu un thème qui était conçu spécialement et pour la clé USB de réemploi. Donc c'est le développeur de Multisystème qui a conçu le thème. Multisystème qui est le logiciel ben, utilisé pour la création de la clé.
D'accord. Il y a un gros bruit par là.
J'ai fait quoi comme vidéo
Dernière, comment faire comment cloner son propre système personnalisé aussi. Donc du coup, pas Ubuntu, pas des FISO, mais prendre n'importe quel système Debian dérivé et en faire un clone pour pouvoir l'installer.
Tu l'as vu?
Ben ouais, je l'ai vu. Tu l'as posté hier.
Ouais, mais elle n'est pas encore sortie. Elle sortira tantôt.
Eh ben, je l'ai vu.
Ouais. En fait, ouais. Elle est donnée à l'équipe pour qu'ils me donnent leur avis.
Ouais, elle dure une heure.
Elle dure 1 heure, mais j'aurais pas su faire mieux. Voilà, il faut bien 1 heure parce que.
Mais non, ouais. Mais ça dure 1 heure de le faire. Donc.
Ouais.
C'est pas parce que quand on fait un tuto écrit, effectivement, ça prend 10 minutes à lire, mais ça met 1 heure à faire quand même, hein.
Et puis t'as vu, je suis pas avare d'infos, fait tout. Voilà.
C'est vrai, bon, on va les laisser parler un peu parce que si on continue à discuter tous les deux, on va finir par se faire virer du bar.
Ah non.
J'ai fait une vidéo.
On est déjà confinés, donc.
Arnaud, la carte des reconditionneurs.
Ouais, c'est vrai. Ah. Ouais. Aussi, oui. Moi, je vais partager celle-là.
J'avais une petite question technique. Clé USB. Moi, je me prends une ISO, je vais sur une clé USB là. Et en fait, j'en viens toujours à utiliser sur Windows le Linux Live USB là. Pour moi, c'est toujours la meilleure solution sur Linux. Je galère toujours à faire un ISO bootable. J'ai toujours une erreur. J'ai l'impression que je galère à fond. Et donc, je voulais savoir, toi, tu recommandes quel logiciel pour faire
Linux.
Pardon.
Si tu es sur Windows. Le plus simple pour faire une clé, c'est les Nature. Non.
Nature, ouais.
La question, c'est sous Linux.
Ouais, sous Linux, pardon.
Ça marche bien.
Pour moi, ils sont tous simples. Maintenant, attends, le plus simple.
Vous avez jamais des erreurs de l'ISO, genre il manque des fichiers .so ou de je sais pas quoi quand tu boots.
Non.
Et non, j'ai pas eu ça moi. Attends, c'est quoi? Et c'est quand tu boot, il manque quoi? Genre w32.iso ou un truc comme ça?
Je me rappelle plus, mais je sais que ça m'arrivait souvent sur le Linux. Je sais que ça m'arrivait souvent, je faisais ma clé, je prenais mon ISO Ubuntu, je prenais mon ISO Debian. Là, après, je la gravais, ça disait tout bien ok, même checksum, tout ça, je la boot, et ça, j'ai des erreurs de .so qui sont mal faites, je sais pas quoi.
Mais je t'interromps, je t'ai dit Linux sous Windows, mais c'est sous Linux aussi. Hein.
Ouais, il est sous Linux.
Et il est très simple. Donnez-moi votre ISO, choisissez la clé et c'est tout.
Il est un peu lourd. Hein.
Comment tu l'appelles, juste je vais le mettre dans les notes de l'émission.
Balena, Balena, Etcher, Etcher.
Oui, c'est ça.
D'accord. Tu vois, je connaissais pas du tout.
Celui qui.
Sur Windows, ils prennent Rufus. Ouais, sur Windows, généralement, ils utilisent Rufus pour transférer les ISO sur USB.
Il y a une
sinon, sinon, multisystème, c'est bien. Tu peux mettre plusieurs ISO sur la même clé.
Ah oui, non, ça, celui-là, il est excellent.
Ah, mais ça, c'est le must.
Ah, non, ah oui, non, mais
c'est le must parce que, ouais, enfin.
Non, mais il est personnalisable, en plus, quoi.
Tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà, bien entendu, ben, tu peux mettre une ISO, 2, 3, 4, mais tu peux tellement faire plus. Regarde ce qu'on a fait avec. Donc,
Oui, parce que c'est vrai que c'est le côté technique de la campagne de réemploi. Enfin, peut-être qu'on explique quand même ça. Comment c'est gaulé.
Ouais, c'est ce qu'il y a derrière.
Et comment qu'il est foutu, le machin.
Ah, parce que tu nous parles d'une clé USB magique, mais depuis tout à l'heure, on sait pas comment le marche, ta clé magique.
Mais parce qu'il aime bien faire des teasers. Il aime bien faire des teasers. Non, mais il adore ça.
Ben, il faut une
clé USB. Je vais revenir pour un prochain interview.
Oui. Ah, mais ça me dérange pas. On se plaît bien.
Ben ouais, c'est cool.
Alors, écoute, je veux bien qu'on se plaise, mais il y a une certaine limite, hein.
On ne se rapproche pas trop, ça va?
Voilà. Ne touche pas près de moi.
Bah, de Belgique en même temps.
Bah, t'es pas loin, hein.
Je suis pas loin.
Bah, pas loin.
Ouais. Je ne suis pas loin.
C'est lui le plus proche, hein.
C'est moi le plus proche, hein.
Tu as dit?
Techniquement, non. Techniquement, je suis à 3 km de la frontière.
Attends, j'y vais? Ah ouais. Non.
Ah oui, dans ton... Et là, le temps qu'on enregistre, t'as peut-être pu arriver chez moi.
Ben oui, bonne clé USB. Non, c'est... Voilà, une clé USB, mais de bonne facture. C'est important.
Et SanDisk...
Oui, SanDisk, Kingston... Mais voilà. Je veux dire, pas une clé USB à 2 euros que t'as trouvé. Voilà, parce que ben, il va quand même y avoir beaucoup de lecture, écriture sur une clé. Et si tu prends, si dès le départ, t'as une bonne clé USB, ça va déjà t'éviter pas mal de soucis.
Alors combien
existe les clés USB SSD maintenant? La technologie SSD, mais sur l'USB.
C'est un SSD.
C'est plus ou moins ça. Hein.
C'est plus
ou
moins
ça. C'est plus lent qu'un disque dur, une clé USB.
Oh ouais, non.
Mais parce que aussi, tu as l'interface qui est USB, qui n'est pas SATA. Mais sinon, la technologie à l'intérieur de la clé, c'est une puce électronique SSD, on peut dire, quoi, en gros.
C'est triste, t'as un truc qui envoie des centaines de mégas à la seconde et t'es limité par...
Par le tuyau.
Ben, c'est triste.
Ouais, mais faut pas regarder Jackie et Michel en même temps. Hein. Oh, c'était la mauvaise... Elle est pas bien.
J'en ai une meilleure pour vous, si c'est le moment de la placer.
Vas-y, place-la, vas-y.
Alors, est-ce que vous savez quand est-ce qu'une poule a mal aux fesses?
Et quand elle ponte.
Ah, quand elle ponte.
Quand elle passe du coq à l'âne.
Oh,
aïe. Oh.
Très vilaine image. Ah putain, faut qu'on s'enlève ça du cerveau maintenant.
Là, et vous laissez dire des trucs comme ça.
Non, moi j'adore ce genre d'humour, personne.
John n'est pas là, il faut bien
combler.
Heureusement que John n'est pas là parce que c'est le premier pour dégainer des trucs comme ça. Mais alors, il te dégaine, mais pire que Fabrice, parce que Fabrice, tu vois, il te prévient pas avant. John, il te le balance, mais tu t'y attends pas, tu vois. Il va parler pendant une demi-heure et puis il va te balancer ça.
Je ne savais pas que ce serait une émission malsaine, en fait.
Ah ouais, non, mais attends,
c'est pour ça que je vous ai demandé si vous nous écoutiez avant, parce que vous ne seriez pas venu.
Ah oh ben, si j'avais su.
Bah, tu l'as amadoui il y a 9 ans avec tes échanges sur les forums et tout, attends. T'as quand même mis 9 ans pour le faire arriver, hein, donc. Si au bout de 9 ans, il n'y a pas dans l'émission, quand même.
Ouais, il ne viendra jamais.
Il viendra jamais. Non, mais bon, en tout cas, ouais. Donc, pour revenir à la clé, donc tu disais à Maury, ouais, du SanDisk ou quoi. Mais combien en capacité, par contre?
Eh ben, peu importe. Plus tu auras une clé importante en espace de stockage, plus tu pourras y placer de clones. Maintenant, tu prends même une clé de 8 gigas, ça va fonctionner. Tu pourras, à la limite, tu pourras mettre un clone, peut-être deux, même. Je réfléchis. Oui, deux.
Deux PDF ISO, ouais, ça tient, mais ouais, franchement c'est dommage.
Ouais.
Vu le prix des clés, ouais, la différence entre 8 et 16 gigas, vaut mieux se prendre un 16 gigas, t'auras la place de mettre en plus
quelques clés de culture libre. J'ai acheté 32 gigas pour mon père cette semaine, 5,95.
Ouais, voilà.
Enfin, et une SanDisk, hein, donc tu vois.
Non, ça vaut le coup, franchement, de se prendre 16 ou de 32.
Mais d'ailleurs, tu t'es pris une clé de 64, toi, je crois.
Oui. Ouais, bah ouais, je suis tombé sur une bonne occasion, donc j'ai pris une clé.
Et tu as pris la même que j'avais utilisée.
Je sais plus.
Si, tu as pris une... Attends. Tu as
la Kingston...
Une Data Traveler.
Oui, voilà.
Voilà.
Ouais, voilà, c'est ça.
Moi, je connaissais pas cette marque-là.
Et Kingston Data Traveler, ouais. C'est, et bref, enfin, effectivement, elle fonctionne très bien. Bon, j'ai mis 3 semaines à la faire, mais elle fonctionne très bien maintenant. Ah, c'est galère.
Mais pourquoi tu n'y arrivais pas au début? J'ai pas tout suivi.
Parce que c'est vrai que...
Ah ouais, mais elle dit la gêne, allez.
Ah, bah, je suis désolé. Ah, bah, je suis désolé. Oui, alors... C'est un ordi qu'on m'a donné. Ouais.
T'as pas un ordi
reconditionnel chez lui? Oui, ils ont lancé un appel en plus, c'est con.
Mais oui, un colis par la France.
Non, comment ça se fait? Attends, mais dites rien. En plus, c'est Patrick qui a voulu. C'est ça qui était fabuleux. Moi, j'arrivais pas de mon côté. Et Patrick, il a lancé un appel. Il voulait que les mecs, ils se déplacent pour m'amener un ordinateur. Vous êtes tarés, les gars. Non, c'est bon, je vais me démerder.
Oui, je crois que j'avais vu un truc comme ça qui...
Mais oui, pendant 2 jours, il voulait absolument que tout le monde se déplace en France pour m'amener un ordi. C'est un fou furieux, ce Patrick. Mais je suis paumé, là. Non, mais en fait, maintenant, je fais, mais en virtuel.
De quoi que tu dis?
Bah, je l'ai fait en virtuel, hein, au final, quoi. Au bout de 3 semaines, j'en ai eu marre, donc j'ai fait tout le processus, mais depuis une machine virtuelle.
Et quand je suis arrivé, au cas où, enfin, c'est pas pourquoi, mais quand je suis arrivé, Patrick n'utilisait pas ne travaillait pas virtuellement, hein. Il faisait tout sur un système rendu.
Ouais,
c'est parce que moi, je suis arrivé, tu sais, Amaury, tu serais fait une vidéo, oui, ok, mais moi qui joue beaucoup avec la virtualisation, d'office, moi, je vais faire ça virtuellement. Et c'est comme ça que j'ai dit à Patrick, écoute-moi, toutes mes clés, c'est fait virtuellement. Ah bon? Et là, il a vu, et il a dit, ben, c'est vrai que, mais c'est génial. On n'en tire de la souplesse. Et,
bon, faut avoir la bonne machine derrière, quand même, hein.
Faut avoir de la RAM, faut avoir,
Faut avoir une bonne machine, quand même, hein.
Ouais, mais attends, il bosse là-dedans, il va, il y a 32 gigas de RAM.
Oui, parce que il reconditionne pour lui aussi, en fait. Quand tu lui files un lot de 10, avec 10 machines, il en fait un seul. Voilà. Surboosté. Tu vois? Une espèce de truc monstrueux.
Il y a un disque dur de 8 Tera,
si tu savais, si tu voyais le matériel que j'ai ici, c'est là que comment on dit là, les cordonniers du
match.
C'est véridique. J'ai pas à me plaindre. Voilà, c'est vrai que j'ai quelques machines, même beaucoup, mais j'ai des machines de 2011, 2012. J'ai mon Xeon avec lequel je fais mes vidéos, il est de 2009.
Hein?
Mais oui.
C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Il n'y a pas besoin de tant qu'on fait pas du jeu vidéo.
Et regarde, une grosse machine, hein. Tu me vois en vidéo là. Tu crois que moi j'ai une grosse machine. Mais non. Là, je suis sur mon. Écoute bien, je suis sur un Lenovo ThinkPad T430S. Et je fais des vidéos sur YouTube avec. Maintenant, il y a 16 gigas de RAM, il y a un SSD, mais.
Ah bon,
écoute, le processeur, c'est un Intel Core i5 de 3e génération.
Et alors?
Mais oui, mais bon, tu pourrais croire que j'ai un, je sais pas, dernière génération. J'ai de la RAM. Tu en veux de la RAM? Tu viens la chercher.
Oh bah, ne me tente pas, hein. Moi, je te ramène mon petit Lenovo, là, ma fille, là, sur lequel j'enregistre dessus. Moi, tu me mets de la RAM, je serais très content, hein.
C'est bon, allez, on lance un appel pour la RAM. Il faut de la RAM.
Voilà,
c'est important. En ce moment, on va avoir besoin,
Surtout sur les Macs.
Sinon, je voulais poser une petite question avant vous.
Mais vas-y.
Que tu rédigeais des...
Ah, Morgan, ça coupe, Morgan, on t'entend pas.
Excusez-moi, je suis en...
On l'a perdu.
Allô?
Oui.
Excusez-moi, c'est que je suis en push to talk et des fois je suis sous le seuil. Désolé. Alors, je vais recommencer. Je disais, oui, j'ai vu que tu postais sur Blabla Linux, que je connaissais pas du tout en fait. Mais
comment?
Non, je connais pas du tout.
C'est pas vrai.
Bah ouais, mais...
Ça, j'y crois pas.
Et voilà, c'est quoi? C'est ton site? Non, t'es participatif? C'est une autre association encore?
Non, c'est... Enfin, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux en mon propre nom, ça fait des années. Après, on m'a un peu connu sur le nom Annie Computer, ça a duré 3-4 ans. Et puis, depuis, ça fait pas si longtemps, c'est pas si vieux, Blabla Linux, ça fait peut-être, on est en 2020, 2016. Et voilà, c'est une page Facebook, c'est une chaîne YouTube et un blog. Blog que j'arrive très mal à alimenter depuis un petit temps. Par contre, la chaîne YouTube, la chaîne YouTube aussi, hormis parler maintenant de ma distro à moi, Mint, du collectif, des biens de facile, je parle plus de grand chose, mais ça me suffit et ça me plaît. Voilà.
Ça, c'est pour le côté amateur.
Ah oui, oui, ça,
personnel.
C'est ma... Oui, voilà. C'est
et une... après, tu as une page professionnelle. Tu fais comment pour te faire connaître au niveau professionnel?
Une page professionnelle sur Facebook au nom de SIL, Service Informatique Libre.
D'accord. Et tu fais du dépannage, des choses comme ça ou...
Je vends du neuf, donc reconditionné, dépannage sur site, particulier, petite société, pas les grosses. Ça peut aller à donner des cours, tu vois.
T'as pas de magasin, enfin.
Non. Tout se passe. Donc on communique via la page. On peut me sonner.
T'es indépendant, quoi. T'as ton,
voilà,
ton véhicule et tu voilà. Tu réponds aux demandes.
Ouais, pour beaucoup de consultances, donc j'aimerais votre avis là-dessus. On aimerait bien, j'ai pas installé X ordinateur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, genre de réseau, voilà.
Et uniquement sur Linux ou tu fais
quand
même...
Ah non, ça, maintenant, voilà, enfin, vivre de Linux, voilà, c'est ça que je dis, ça c'est mon job, c'est, ouais, il faut dire ce qu'il y a, c'est, voilà, c'est Microsoft Windows, c'est la suite Office, Microsoft Office, mais quand je sais, dès que je sais... Ça dépend le client, ça dépend les besoins. Eh ben, j'essaye de placer un système libre, les logiciels libres. C'est pas facile. Parfois, j'y arrive. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est mon côté pro. Maintenant, la passion, ben, la passion, c'est le collectif Ubuntu, c'est mes canaux sous le nom Blabla Linux. Voilà.
En fait, il noyote l'univers professionnel Windows. Il s'est mis à l'intérieur et il diffuse du Linux dedans.
C'est notre
taupe belge. Il va tous le bouffer.
Il est. Tout de suite.
C'est grâce à lui s'il y a le subsystème Linux alors.
Exact. Mais en fait, c'est moi à l'origine.
D'accord.
Voilà.
Ok. Non, mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est la réactivité entre le moment où. Du côté Mabuntus, on a dit, il y a Debian Facile qui veut se lancer, et puis, avec la pulsion du nouveau président, on lance un nouveau projet, on veut essayer de réunir toutes les communautés, ça a été relativement rapide, mais maintenant, c'est quoi votre but, le but ultime? Voilà, si tu te dirais, tiens, d'ici 3-4 ans, du côté de Debian Facile, vous voudriez faire quoi?
Dans 3-4 ans?
Ouais.
Moi j'ai été élu pour un an, après je dis.
Mince, faut vite publier l'épisode.
Ah ouais, ouais.
C'est quoi la G?
C'est l'été prochain, non, ça va, t'as encore le temps.
Ah, ça va.
Non, en fait, non, c'est vrai que.
Tu as une feuille de route intéressante, non?
Ouais, j'ai une feuille de route.
Ce que tu voulais faire.
Ouais, c'est comme ça. Tiens, je voulais pas débarquer en disant salut, j'aimerais bien être président, point barre, quoi. Enfin, j'avais quand même quelques idées à la base. Un peu comme Amaury, je voulais faire un peu plus de concret, faire rentrer un peu plus d'IRL dans la communauté et aussi réunir les communautés. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouve ça ridicule, quoi. Cette espèce de dispersion.
Mais
je suis pour le fork, hein, je suis tout à fait pour la liberté. En revanche, je trouve que il manque une unité au niveau du portail d'accueil, tout simplement. C'est-à-dire que quand un débutant, quand quelqu'un qui connaît pas Linux débarque dans le libre, ouais. Ben il débarque sur 25 pages Google de recherche, quoi. Voilà quoi. Et ça, je trouve pas ça normal. Je trouve ça tellement débile que autant de communautés ayant le même but, utilisant les mêmes logiciels, fonctionnant avec les mêmes licences, se retrouvent aussi dispersées quand on fait une recherche. Je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais. C'est un grand rêve utopique. J'y crois pas en un an. Je sais ce que ça implique, enfin bref. Mais moi, pour moi, un rêve, ce serait d'avoir juste un portail d'entrée unique.
Ça serait bien, c'est vrai.
C'est-à-dire, effectivement, moi, je sais que il y a des utilisateurs différents, il y a aussi des développeurs différents, on a des personnalités différentes, des façons de travailler différentes, mais je suis persuadé que tout ça, ça peut former un joli univers qui peut être accessible via un portail.
Je peux troller?
Mais non, mais c'est pas.
Non,
c'est...
Juste un petit troll, ça serait.
Okay.
Ça serait DistroWatch.
Alors, tiens.
Ça, c'est méchant, ça.
Non, mais non, faudrait pas payer. Et donc.
Ah bon, non, c'est pas, il faut payer. Payant, ah ben, DistroWatch.
Attends. Alors DistroWatch, soit c'est sur recommandation, soit tu payes et quand tu payes, tu es tout de suite dans la liste.
Ah ouais.
Bah ouais.
Ah oui, c'est triche.
C'est un truc là.
Non, sérieusement.
Non, je déconne.
Ouais, pour moi, c'était juste un site qui faisait les distributions et qui les notait.
Non, alors DistroWatch, en fait, sur proposition soit d'utilisateur, soit de contact, etc., tu connais le mec, tu lui envoies un mail, tu dis tiens, regarde, il faut que la distribution soit quand même active, qu'elle ait un forum, qu'elle ait un wiki, qu'elle ait un minimum de voilà. Une fois qu'elle a ça, tu peux faire ta demande pour rentrer dans DistroWatch. La demande est en attente. T'as déjà, il y a d'ailleurs une page DistroWatch les distributions en attente qui est accessible. Je sais plus sous quelle adresse. Ouais. Mais bref, il y a une page qui liste les distros qui sont en attente. Et régulièrement, le mec il les teste, il les note, hein, il met son avis, il publie et voilà. Mais si tu veux que ça aille plus vite, tu payes. Et puis comme ça, elle monte dans la file tout de suite ta distro. Mais pas dans la file des cliquets, hein. Elle est juste présentée. C'est tout, hein. C'est absolument, attention, hein. Je suis pas en train de dire qu'il triche ou n'importe quoi. Tandis que DistroWatch, c'est noté juste au clic, en fait. C'est-à-dire que plus tu cliques, plus tu montes dans la liste. Qui est sur la droite.
En revanche, c'est un site putaclic, alors.
Non, c'est, mais pour moi, c'est un excellent portail d'entrée. Mais en revanche, c'est un excellent portail d'entrée quand tu sais où chercher. L'avantage de DistroWatch quand même, ça faut reconnaître, c'est que tu as immédiatement accessible quand tu cliques sur un truc, la page d'accueil du site, le wiki, la doc et le blog. Généralement, voilà, les endroits où tu dois aller.
Ouais.
Au moins t'es pas paumé. Donc en ça peut être un portail intéressant. En revanche, je trouve que il manque de pédagogie et d'apprentissage. C'est pour ça que pour moi, mon rêve, ce serait d'avoir un portail unique où n'importe qui pourra arriver. Avec le premier embranchement, j'y connais rien, ou t'inquiète pas, je m'y connais, et hop là, et tout de suite ça te dirige, et tout de suite tu peux être en face d'une constellation, effectivement, là oui ça peut être effrayant, mais au moins elle sera réduite de moitié, de quart, ou au moins, tu vois, et ça, je trouve que ça manque.
La théorie la théorie d'apprentissage, c'est pas genre chaque... un élément, tu le divises en 10, tu redivises en 10, tu redivises en 10.
Et ben.
Non, ça te parle ou pas, ça? Juste oui. Vu que tu connais la pédagogie, ouais.
Alors, ça me parle pas du tout. Enfin, ça ne me rappelle rien, mais oui, ça me parle. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on peut diviser, à partir du moment où on peut moduler, faire un espace modulable, quoi, la personne qui vient et qui vient pour apprendre, il va pouvoir effectivement prendre. Bonne nuit!
Oui, bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Voilà.
Ben... Alors, 1h26, c'est le premier au revoir.
C'est pas moi qui l'ai fait, hein.
Mais non, mais tu peux pas continuer à parler quand il y a un enfant qui dit bonne nuit comme ça. C'est trop mignon.
Tu m'étonnes.
Ah non, mais sérieux. Enfin, ouais. Pardon.
Alors, on a coupé l'entrée dans l'heure, là.
Ah ouais, désolé. Ah ouais, désolé, moi, je suis un
peu. Ah non, c'est moi qui suis désolé.
Non, sois pas désolé.
Je pensais pas qu'elle allait arriver à ce moment-là.
Mais sois pas désolé, tu rigoles, quoi. Non, moi, je suis père au foyer avant d'être geek, hein. Donc, une petite voix comme ça, ça me... Enfin, bref.
Et donc, je disais... que tu dises geek.
Hein?
On dit geek, non?
Ah, geek, ouais.
Il prononce à la française.
Geek.
Non, je prononce avec une chimée.
Il a été trop influencé par les mêmes.
Avec une chimée.
Non, mais les gars, vous nous dites, allez-y, buvez votre bière avant l'apéro. Bah
oui, c'est ça.
Ça va être sympa. Ah ouais, bah voilà, après, t'as des problèmes de prononciation. Alors, commencez pas à me chauffer. Non, mais je rêve.
Et tu remarqueras que c'est le Savoyard qui fait des remarques, hein, tu vois. C'est le jeune insolent.
Mais c'est dingue, quoi. Le mec, il coupe une seconde sur deux et en plus, il me creuse.
Ça tire pas le réel.
Alors, si vous voulez, j'ai son adresse. Hein.
Allez, donne.
On va voir là.
T'as une adresse IP, c'est bien.
Non, mais je pense qu'on va aller faire un petit voyage à Chambéry bientôt.
Il a une blague, une baffe qui l'attend depuis outre-Atlantique.
Ah ouais, il y a un Canadien qui doit lui en mettre une il y a pas longtemps, depuis 2 ans là.
Bon, pendant qu'il nous reste un petit peu de lucidité.
Oui, parce que posé...
tu nous avais posé la question sur la technique en rapide, comment ça fonctionne la clé.
Oui.
Alors comment qu'elle est gaulée la clé? Après, Amaury t'expliquera comment on peut la faire fonctionner. D'accord. En fait, la clé en fait, elle est divisée. Il y a deux partitions. Voilà, ouais. Juste. Sur la première partition, on va y coller multisystème. Et normalement, multisystème te sert à utiliser différentes ISO, tester différentes distributions, etc. Bon, bah là, on va pas lui réserver l'intégralité de la clé, on va lui réserver juste une première partie. Donc sur cette partie-là, on va y coller multisystème, bien sûr. Mais au lieu de lui mettre une ISO, on va lui mettre CloneZilla, l'outil qui sert à cloner des systèmes, justement. D'accord ?
Ouais. Bah oui.
Ok. Une fois qu'on a collé CloneZilla là-dessus, sur l'autre partition, on va mettre des clones qui ont été fabriqués avec cette version de CloneZilla. Alors, soit des Mabuntu, soit des FISO, soit de n'importe quelle distribution, comme Amaury l'a expliqué dans sa dernière vidéo. Donc, une fois qu'on a ces deux partitions-là, on boot sur la clé. Multisystème se lance, et il va se lancer avec une entrée qui a été modifiée par un script, tout simplement, et qui va lui indiquer le chemin de CloneZilla. Et qui dit en plus à CloneZilla, bah tu vas formater le disque et tu vas y coller un des clones qui sont présents sur la deuxième partition. Il y a un mini menu en fait qui te demande de choisir le clone que tu veux installer et tu appuies sur Y et tu appuies sur Y une deuxième fois parce que tu dis oui, t'es content et ça y est, c'est parti. Voilà. Donc le principe technique, c'est un détournement en fait de deux logiciels, multisystème qui sert à tester des ISO, mais cette fois-ci il teste pas des ISO, il utilise CloneZilla, et CloneZilla qui normalement sert à faire du backup de données, du backup de système complet, qui là au lieu de faire du backup va faire une restauration d'un système préinstallé, préconfiguré, alors soit Mabuntu, soit des FISO, soit un système préconfiguré, préinstallé que toi t'as décidé de faire sur ton système à toi, chez toi.
Est-ce que t'es en train de dire que tu appelles des fichiers que t'as toi en local avec ton CloneZilla et t'en fais une clé USB?
Ouais, en gros.
Ça démarre, ça boot.
Voilà.
Ça, c'est vraiment la force de Linux. T'as le disque dur et ça boot partout.
Eh ouais, mais sauf qu'au lieu d'en avoir une, t'en as autant que tu veux. Et c'est ça l'intérêt, c'est que tu peux mettre une version 64 bits, UEFI, et une non-UEFI, par exemple. Ce qui fait que tu vas pouvoir t'adapter à tous les matos qui sont là. Eh ouais.
Avant, on a une luge qui s'appelle, qui a presque ton pseudo. Qui est Alpinux.
Ouais.
Du coup, des install parties faut gérer tous les archis, tous les machins. Quand t'as un problème technique sur l'ordi, comment tu gères? T'as un temps par ordi pour limiter. C'est des problématiques, c'est compliqué. Ouais. T'as intérêt à avoir plusieurs ISO sous les mains.
Alors, excusez-moi de vous couper parce que c'est peut-être une bonne question qui pourrait rebondir, mais est-ce que le rêve après des clés USB de ce type-là, ça serait pas de dire, je dis peut-être une bêtise quand je dis ça, mais est-ce qu'il y aurait pas possibilité à ce jour de dire, tiens, je lance un script au moment où la clé boot, dire voilà, j'ai telle architecture, je te conseille telle version de mon distro.
Eh ben, c'est fait.
Ça
existe déjà, d'accord.
C'est ce que fait, en fait, Patrick a optimisé son script, ce qui fait que maintenant, sur la même clé, tu peux avoir les deux architectures, UEFI et non-UEFI.
En fait,
faut une grosse clé là pour le coup, hein.
Ouais.
Mais c'est pour ça que Amaury va vous expliquer que lui il l'a fait. Lui, c'est comme ça que c'est venu. C'est que quand il est venu sur GitLab et que il a commencé à travailler avec Patrick et à tester différentes machines et différentes architectures, Patrick lui a amélioré son script en conséquence pour que ça fonctionne vraiment partout et pour qu'on puisse le publier sur des murs faciles vraiment et le donner à tout le monde, quoi. Que tout le monde puisse le faire. C'est toujours le même principe, hein, le vieux principe humaniste, simple. Effectivement, apprends aux gens à faire les choses par eux-mêmes, hein, tout simplement, plutôt que de leur filer un truc tout fait et voire de leur faire payer pour ça, quoi. Parce que il y a une arnaque qui circule en ce moment d'ailleurs. Je voulais juste faire une petite précision.
Oui, c'est vrai.
Il y a une arnaque qui circule en ce moment sur Internet, sur soi-disant une clé magique. qui est vendu, je sais plus, 30 € ou un truc comme ça, et qui permet de, soi-disant, restaurer, de rafraîchir n'importe quel ordinateur. On achète la clé, on boot dessus et tout. En fait, ça fonctionne sur le même principe. Il y a une Lubuntu dedans, je crois, un truc comme ça. Sauf que ça marche pas, bien sûr.
Il y a plein d'autres qui marchent.
Ça marche, mais quand il y a un gros coup de pot, c'est-à-dire que quand tu tombes sur la bonne architecture, etc.
Voilà, ouais.
C'est la grande différence avec le projet de reconditionnement qu'on a mis en place, Et le script qui est associé et qu'a fait Patrick, c'est que ce script-là, justement, permet de détecter l'architecture et de ne proposer lors du menu que les clones qui sont compatibles avec cette architecture. Donc le mec, il a même, il est sûr que, à la limite, il peut se gourer de distro, mais il peut pas se gourer d'architecture quand il fait défiler le menu.
Mais j'aurais plus rien à dire, moi.
Ah merde, pardon.
Mais il a tout
déjà
dit.
Il a tout expliqué.
Tu me dis ferme là.
Moi, je veux plus venir avec toi sur une émission ainsi de suite.
Mais non,
j'ai l'air con, regarde, je dis rien moi.
Alors, tu me dis que t'as des problèmes de voix. Et
oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai.
Et on aurait dû t'envoyer du miel à Maury avant, tu vois.
Ah, j'en ai pris, tu sais. J'ai même un tabac.
Il a pris sa petite pastille avant.
Non, mais t'as tout dit. T'as tout dit. Comme il...
Ouais, mais tu dis grosse, donc ça veut dire que là, on monte dans la, dans les 64.
Non, regarde, mais... ma clé personnelle à moi, c'est une 32. Maintenant, c'est une 32 USB 3. Ouais. Donc, elle tourne pas mal. Et, voilà. Moi, j'ai fait autrement. Donc, il y a bien une partition FAT 32. Avec, comme l'a dit, Arnaud, donc, Clonezilla. Ouais. Mais une partition FAT 32 beaucoup plus grande. Mmh. Parce que sur cette partition, enfin, j'explique. Admettons, j'ai 6 clones, donc sur la partition XT4, hein, ouais, la grande partition. Ouais. Eh bien, sur la partition FAT32, j'y ai placé une image ISO qui correspond à chacun des clones. Pourquoi? Parce que j'ai eu le cas. J'ai sorti ma clé magique. Il m'a fallu 2 minutes pour reconditionner la machine pour, au bout du compte, me rendre compte, eh bien, que le Wi-Fi n'allait pas, ou ça n'était pas reconnu. Donc, j'ai dit à Patrick, oui, mais ce serait bien quand même de pouvoir tester avant en live la distribution donc que l'on va installer via le clone. Donc il est possible de booter en live grâce à cette clé.
Ah, avant, d'accord.
Avant de procéder au clonage. Donc mais sur ma clé.
Quand même ton problème de wifi, ça me surprend parce que bon maintenant les cartes tout ça, ça peut essayer.
Non, j'ai le cas sur un Lenovo. Lenovo d'un an ou deux.
Ah ouais.
Oui. Donc voilà, donc
tu
maintenant.
Tu me surprends. Voilà, franchement, ça me surprend.
Tu vois?
Ah ouais, ouais. Oui, mais... pas une machine récente, quoi, je veux dire.
Ouais, mais ça arrive. Ça, c'est rare, mais ça arrive encore.
Bah, tu fais comment dans ces cas-là? Tu peux pas faire grand-chose. Si t'as pas le driver pour la carte réseau.
Non, bah, un peu de fouille. Parfois, je peux l'installer manuellement. Sinon, ça, voilà, ça arrive parfois que...
Bon, après, l'avantage, c'est que c'est une clé FAT32, donc il suffit d'aller sur le net, de choper le driver, de le coller sur la clé, de booter, et puis après d'installer le driver, tout simplement. Alors, effectivement, on perd l'effet 1 minute 40 d'installation.
Et tout, ça m'est arrivé une fois.
Mais bon.
Une fois sur, je vais dire, quand j'ai fait ici sur 12, 13 machines.
Et alors, encore, juste, voilà. Ça semble bien. Donc, alors maintenant, concrètement, il y a eu combien de machines reconditionnées?
Ah ben, écoute, tu me demandes à moi ou en tout
déjà de ton côté.
Pour le collectif, ben je sais pas moi, je dirais une vingtaine peut-être maintenant.
Ah oui, quand même.
Ah oui, c'est tout jeune en plus, hein. On a commencé à en parler cet été.
Ouais.
Mais c'est vrai que le collectif et Mabuntus, eux, ils ont l'habitude de ce genre d'action. D'accord?
Ouais.
C'est leur mode de fonctionnement. En revanche, de mon côté. Du côté des biens faciles, c'est un tout petit peu plus délicat. Parce que la communauté des biens faciles, c'était surtout une communauté d'entraide numérique.
Mmh.
D'accord? Donc, même s'il y avait des opérations qui étaient organisées, des rencontres IRL, etc., c'était pas l'objectif premier et c'était pas l'activité première de des biens faciles, de faire dans le concret directement.
Mmh.
Donc, il a fallu expliquer. Il a fallu présenter, proposer et bien détailler tout ce qu'on allait faire. Pour que la communauté puisse commencer à bouger et commencer voilà. Et là, ça a commencé à bouger. On a sur la carte de reconditionneur, maintenant on arrive à une cinquantaine de personnes entre la France et la Belgique. Ça y est, t'es plus tout seul à Maury. j'ai placé quelques points en plus. Il suffit d'aller sur cette carte pour s'apercevoir qu'il y a non seulement certaines associations qui se sont jointes à notre projet, mais
oui, il y a Chilux qui s'est rejoint à vous.
Oui. Mais surtout des particuliers.
D'accord.
En fait, des utilisateurs qui sont sur le forum et qui se sont dit mais voilà une campagne intéressante, j'ai de la place dans mon garage, s'il y a 10 ordi à choper, je les chope et si ça me prend uniquement si ça me prend que 2 minutes à retenir, je veux bien le faire parce que c'est toujours ça le problème. Trouver des volontaires pour reconditionner une machine, c'est assez facile. Mais quand on leur dit qu'ils vont passer trois plombes, paumer leur après-midi, pour au final récolter zéro, à part le sourire de la crémière, ce qui est déjà extraordinaire, mais bon, tout le monde ne vit pas qu'avec ça. Je veux dire, il y a un moment, recruter des volontaires, ça demande aussi du temps. Ça demande aussi de l'énergie. Et il faut donc, nous, de notre côté, qu'on puisse proposer un outil suffisamment fiable, suffisamment efficace, pour que la personne n'y perde pas du temps. Que ce soit que du bonus pour tout le monde, en fait.
Bah, quand tu parles de Chilux, c'est déjà des assos qui ont déjà l'habitude de faire des installs de partie.
Alors,
donc, je pense que pour eux, c'est peut-être un bénéfice dans le sens où tu vas moins galérer, tu sais que tu vas ta clé, si tu as une bonne clé, alors, tu vas pouvoir installer ta distro facilement.
Alors, certaines assos utilisent déjà le principe du clonage, ils le font même par réseau. C'est-à-dire qu'ils branchent tous les ordis en réseau et ils font booter en PX, ils font booter sur réseau et ils installent par réseau direct.
Ouais,
donc, ils installent toutes les machines. Le seul problème, c'est que ça fonctionne par lot uniquement, il faut que toutes les machines soient identiques. Ou vraiment très similaire pour que tous les drivers soient les mêmes, etc., qui est la même reconnaissance, c'est toujours le même problème. L'avantage de la clé, c'est que c'est rapide et en plus c'est personnalisable, parce que, et ça Amaury, je vais te laisser en fermer ma gueule, promis, ils ont fait un nouveau truc qui est encore mieux que tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, même si c'est déjà pas mal. Ils ont réussi la personnalisation du clone lui-même.
Alors là...
Voilà. Donc c'est même plus je télécharge un truc, j'installe, je sais entre guillemets bien sûr je sais pas ce que j'installe.
Ouais.
C'est non seulement je peux tester, comme Amaury vient de vous le dire, parce qu'on met une image ISO qui correspond au clone, donc effectivement on peut booter en live directement, mais ouais. Ils ont mis un autre mode d'installation. Amaury, je te laisse faire la note.
Vends-nous du rêve.
Allez, allez, en trois lettres, petite devinette. Allez, trois lettres.
RTFM.
Non, là, là, en fait, c'est le fameux, je sais pas si vous connaissez le fameux mode que l'on appelle OEM. Mmh. Vous avez déjà entendu?
Non.
Non? Ubuntu le propose. Mmh. Je sais pas si vous avez déjà vu quand vous lancez une ISO de Ubuntu. Hein, donc tester le système en live, installer directement, et vous avez en dessous donc utiliser le mode OEM. Eh bien, c'est le fameux mode que les intégrateurs de PC utilisent. Donc ceux qui Windows est installé, on peut dire en mode OEM. Il est préinstallé, c'est ça en fait. C'est une préinstallation du système et la finalisation de la personnalisation du système. Eh bien, c'est l'utilisateur final qui le fera. Tu as compris ou pas? Donc,
est-ce que les autres ont compris? Parce que je crois qu'on en a perdu deux depuis tout à l'heure. Donc,
Si, on a compris. En fait, le système il est installé directement et après c'est au premier démarrage que tu vas le personnaliser.
Exactement. Ici, si tu veux, moi
c'est,
je vais.
C'est comme ton téléphone, c'est comme une.
Oui,
c'est
comme ton... d'accord. Ouais, je comprends mieux comme ça. Ouais.
Je vais réaliser un clone. Je réalise un clone. Donc
ouais.
c'est mon clone, je le propose comme il est là.
Ouais.
Donc ce qui veut dire que l'utilisateur qui va dire oui, le clone belge de Mabuntu, il est bien, je le prends. Mais voilà, il n'a pas le choix, il est comme ça, c'est moi qui l'ai créé. D'accord? Eh bien, le mode OEM va d'accord, je personnalise le clone à ma façon, mais la finalité, c'est que l'utilisateur final, donc celui qui va utiliser le clone, pourra quand même personnaliser nom. Prénom, fuseau horaire, langue utilisée. Tu comprends? Sinon, voilà. Donc c'est ça le mot.
Sinon, le clone c'est un miroir du système qui a été préconfiguré au départ.
D'accord.
Et donc ça veut dire même nom d'utilisateur pour tout le monde, même mot de passe pour tout le monde, même configuration. Enfin bref, c'est un vrai clone. Donc c'est une installation miroir. L'avantage de l'OEM, c'est que ça permet de faire l'installation miroir et d'y ajouter les données personnelles.
D'accord. Parce que si tu viens chercher mon clone, ben ok, mais tu vas te retrouver avec quoi? Avec le nom utilisateur que moi j'aurais bien voulu mettre, le mot de passe que j'aurais bien voulu mettre.
Ouais, mais je vais te bloquer.
Ben non, je te le communique, mais voilà, ce sera comme ça. Donc, ou alors tu le modifies manuellement après, mais c'est galère. Ou tu auras le fuseau horaire, ben pour la Belgique, tu vois? Donc,
c'est vrai que vous faites pas pareil que nous, donc.
que là, je peux créer un clone, certes, je le personnalise comme moi je le veux, mais certaines infos, ben, qui sont quand même importantes et personnelles, nom, prénom, fuseau horaire, mot de passe, son utilisateur, eh ben, tu pourras les mettre.
D'accord.
Donc en fait, comment est-ce qu'on fait? Gros, quand on installe le système, nous, on utilise en fait un compte temporaire. D'accord. On personnalise tout le système. Donc en gros, si tu veux, le compte temporaire, on va dire, je sais pas moi, Mubuntu, ok. Ouais. Je crée le clone, je personnalise le système. Une fois que j'ai fini, un clic sur une icône et en fait le compte, en gros, hein, le compte temporaire est détruit et je donne la main à l'utilisateur final qui lui, quand il installera, il pourra mettre nom, prénom.
Enfin pas quand il installera, quand il l'allumera, hein. Il a juste allumé le mec. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah oui, d'accord.
Parce que je crois que il a oublié un truc quand même, c'est que c'est pas la personnalisation du clone, c'est la personnalisation du clonage. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand lui, quand il installe, il met son clone sur la clé, il installe l'ordi, point barre. Et ça, c'est comme d'habitude. C'est quand le mec redémarre, il va pouvoir.
Il met son nom d'utilisateur, il met son nom de passe Toto. Exactement. Si le mec Toto, ça sera Toto.
Exactement.
Que là, maintenant, c'est pas possible. C'était pas possible.
Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'en plus, les modifications qui sont faites pendant l'installation, quand, par exemple, si Amaury va dans une association ou dans une école, etc., il va pouvoir, au moment de la création du clone, demander aux gens autour de lui, bon, alors, vous préférez quoi? Vous voulez quoi comme logiciel? Vous voulez quoi comme truc? Si les gens veulent ajouter des choses, on ajoute, et ce sera rajouté, et ce sera installé dans toutes les machines à l'identique. Mmh. Le clone sera personnalisé. Et en plus, chacun pourra décider après de son nom d'utilisateur, etc., et pourra personnaliser son installation. Donc c'est vraiment du sur-mesure, quoi.
Je vais rebondir sur une autre question en même temps, parce que tu parlais justement à Maury qui vient installer dans une école ou quoi. Est-ce que, par rapport au fait que tu vas installer X PC, je suppose que tu peux en même temps installer un root dans ce petit réseau-là de PC? Ou est-ce que c'est facile de mettre directement un compte-route? Dire voilà, je vais dans une école, j'ai 10 PC, il veut dire voilà, moi je veux quand même avoir un minimum d'accès pour je sais pas, créer un compte parental ou bloquer.
À ce moment-là, il le fera à l'inverse. Et ben c'est-à-dire que le premier utilisateur créé, ce sera root. Et à ce moment-là, s'il veut restreindre les droits ou mettre du contrôle parental, etc., il faudra sur chaque machine créer un nouvel utilisateur sur lequel il pourra restreindre les droits.
D'accord. Ok.
Voilà.
Et je vais rebondir sur un autre sujet. Est-ce que on peut planifier des apt get update upgrade planifier?
Comment ça planifier?
Alors nous, c'est-à-dire que c'est pas une bonne idée. Mettre à jour un système, c'est pas quelque chose de trivial. C'est compliqué. Des fois, il y a des fichiers de configuration à gérer, des conflits. Tu peux pas faire ça en automatique.
Sur du FISO, on a mis en place l'automatisation de la mise à jour pour les Debian Security. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, la plupart des utilisateurs faisaient jamais leur mise à jour. Mais parce qu'ils y font pas gaffe. Et donc, du coup, on a mis en place la mise à jour automatique pour le dépôt sécurité. Mais, par exemple, avec la dernière version de Thunderbird, qui est passée de 68 à 78, on a eu un problème parce que la mise à jour automatique ne veut pas supprimer Enigmail, par exemple. Il y a deux trois trucs qui sont chiants avec les mises à jour automatiques, mais à part ça, nous on l'a mis en place et Mubuntu l'a pas mis en place.
Mais c'est pas mort-né, Thunderbird là. On dit que ça va mourir cette histoire.
Il continue à survivre.
Il va bien.
Écoute, il s'accroche.
Il s'accroche bien.
Alors que pourtant, ils ont annoncé leur mort, mais ils continuent à vivre.
Ouais, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'ils vivent.
Ils ont annoncé. Non, on fait plus, pourtant, si.
Et Arnaud, j'avais une question, moi. Tu viens de parler de mise à jour automatique.
Oui.
Mais alors, le système, donc, il y a une tâche qui est lancée pour que la mise à jour s'effectue.
Non, ça se fait derrière, ça se fait en background. C'est en démon. Une fois par jour, il va calculer. C'est le paquet Unattended Upgrade qui une fois par jour va chercher les mises à jour et s'il y en a et si elle ne demande pas de désinstallation ou de suppression de paquets, ça va s'installer directement.
Oh, mais l'utilisateur, je demande parce que quelqu'un l'a fait, il y a eu des soucis.
Oui.
L'utilisateur n'est pas au courant qu'il y a une mise à jour qui s'effectue. S'il ferme la machine à ce moment-là. Voilà.
Alors, non, c'est pas un problème, ça. C'est géré par un Unattended Upgrade, justement. Ah, en fait, Le logiciel fonctionne comme ça. Il va télécharger les mises à jour, les ajouter dans le cache, mais il les ajoute une par une, pas comme fait AppGate d'habitude,
ah, okay.
qui va faire en lot et balancer toutes les mises à jour d'un coup. Mmh. Effectivement, là, en plein milieu d'une mise à jour, si t'as une coupure de courant ou n'importe quoi, ça peut foutre la merde et t'es obligé de sortir le DPKG configure A derrière pour pouvoir remettre la situation à jour.
Mint, alors, pourtant, c'est Mint, hein. Eh ben, regarde, eux, ils ont eu des soucis. Je sais pas comment ils ont procédé.
Bah, si comme quoi, ça arrive à tout le monde.
Ouais, si tu coches la case de mise à jour automatique, et on sait rien, et le système se met à jour, tu coupes, tu veux redémarrer, t'as plus rien. T'as le système qui est cassé.
Ben, nous, on n'a pas eu ce problème avec les dernières mises à jour, même avec ces tests-là.
Comme quoi,
Ben non, mais je sais pas pourquoi. Hein. Certainement, ça va être un outil différent parce que Linux Mint est une excellente distribution.
Ah ouais.
Mais c'est vrai que les comportements différents face aux mises à jour selon les distributions, oui, c'est vrai que des fois c'est paradoxal. C'est comme ça. Voilà. C'est la magie du libre.
Quand même.
Mais
non, c'est pas évident d'installer le mode OM. Mais voilà.
Est-ce que ça marchait pareil sur les mises à jour de noyau?
Oui, mais pas sur les montées de version entre, par exemple, Buster et Bullseye. Il n'y aurait pas de montée entre Debian 10 et Debian 11 automatique.
D'accord.
Ça reste figé sur la version stable.
Mais tes mises à jour de sécurité, elles vont prendre en compte la mise à jour du noyau.
Normalement, oui.
Et elles l'installeront en même temps, d'accord.
Là, pour l'instant, j'ai pas eu mise. Alors, depuis qu'on l'a mis en place, on n'a pas eu mise à jour du noyau, donc du coup, j'ai pas de retour sur ça.
Et t'as pas envoyé un mail à Linus Torvald pour lui demander?
Tu vas voir, là. Fuck.
Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai que sur des FISO, on n'est pas une vraie distro. On suit complètement Debian. Donc, des fois, quand il y a un clash sur Debian ou quand il y a un problème, on se le prend dans les dents pareil. Parce qu'on n'a pas de dépôt dédié, par exemple. Mais c'est aussi le choix de la communauté. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de faire justement une énième distro ou un énième fork. C'est de faire juste une Debian accessible. Voilà. Point. C'est pas une Emabuntu, justement.
Et Mabuntu n'a pas de dépôt non plus.
Ils ont pas de dépôt, mais ils rajoutent. Je sais que Patrick rajoute, lui, des paquets Deb externes, qui rajoute des paquets, etc. Voilà. Il rajoute des paquets qui sont pas dans les dépôts Debian, mais que lui installe et qu'il intègre dans la distribution. Mmh. Et c'est comme ça que, voilà, il peut exporter sa distro et la mettre un peu partout. Parce qu'il y a des outils qu'on lui demande à lui, qu'on nous demande absolument pas à nous. Tout simplement. Nous, on nous demande pas Skype, par exemple. Il n'y a jamais personne sur le forum qui est venu pour nous dire il faudrait mettre Skype dans des FISO. Alors que vous, oui, mais c'est normal. Parce que c'est un besoin qui est inhérent à l'activité des Mabuntus au niveau associatif, quoi. Bref. Ça y est, hein, ça recommence, on les entend plus.
Moi, j'ai juste une question. Tu disais Linux Mint, c'est une bonne distribution.
Oui.
Ils ont une Debian édition là qui est.
Oui, c'est
moi je trouve que c'est une bonne chose d'essayer de rester le plus proche de Debian en fait.
Ouais.
Debian.
Oui, non, c'est vrai.
Elle marche aussi parce que moi ce que j'avais compris c'est que en gros ils se la gardaient sous le coude au cas où Ubuntu ils faisaient de la merde. Mais que c'est plus un.
Ouais, mais.
Une balle de réserve qu'un truc où ils mettent vraiment un effort dessus.
Ben les gens disent ça parce que Clément Lefebvre, c'est ce qu'il a dit. Il ne s'en cache pas. Il le dit, elle est là, je la maintiens à jour quand même, ou cas où, ça n'irait plus de l'autre côté. Mais c'est une bonne distribution.
Non, mais la distro, la base principale, c'est Ubuntu pour Linux Mint, de toute façon, quoi.
Ah oui, hein.
Voilà. Hein. Ils ont une édition Debian, mais c'est pas la base principale, c'est pas là-dessus qu'ils développent.
Non.
En tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est que je suis en train de faire un update, un upgrade en même temps que vous êtes en train de me parler.
Il aime vivre dangereusement.
Ah, il va planter Mumble.
Sinon, j'avais une question juste métaphysique, là.
Ah, ça coupe à ce moment-là.
Ah ouais, tu vois. Ouais.
C'est dommage.
Une question métaphysique pour toi, justement. Dans ton article où tu te présentais comme quoi tu es un anarchiste optimiste.
Ben oui, c'est un anarchiste.
Il y avait une partie qui disait, je sais plus exactement, mais je te prends un peu au dépourvu aussi.
Je t'en prie.
Tu parlais sur Internet, que en gros maintenant on utilisait Internet. Tu parlais des armes, la destruction, tout ça. Et après les armes de la lutte. Et après tu dis, justement, Internet c'est un super moyen pour éduquer les gens, machin. Enfin bref, c'est un point de vue, je suis pas d'accord du tout. Moi, je comprends pas avec Internet. Genre maintenant avec Internet, quand tu peux avoir accès à autant d'informations, sources de vérité, de choses, comment ça se fait qu'il y a jamais autant de gens qui sont anti-vaccins, anti-machin, enfin qui croient des théories complètement débiles. Enfin, pour moi, c'est, Internet, ça va pas changer l'espèce humaine, tu vois, genre.
Ah non, j'ai pas dit qu'Internet changeait l'espèce humaine. Je dis qu'elle nous offrait des armes de lutte. Je trouve qu'Internet nous offre des armes à nous tous qui n'étaient pas accessibles avant. C'est-à-dire que je vois à quel article tu fais référence. Oh, c'était il y a quelques années d'ailleurs. Bref, mais donc pour moi, Internet, ça nous offre des outils, les mêmes outils que ceux qui avant étaient les seuls à avoir les armes. Pendant toute l'histoire de l'humanité, les plus forts avaient les plus grosses armes, les plus riches avaient les plus grosses armes, les plus puissants avaient les plus grosses armes, très bien. Voilà. Et effectivement, le reste de la populace fermait bien sa gueule parce qu'il arrivait un moment où sinon elle se faisait soit décapiter, soit plomber, soit... Enfin bref. Là, à notre époque, on se retrouve dans une civilisation où Internet permet à n'importe qui d'avoir la même arme que cette espèce de machin Trump qui tweet. Voilà. Et ça, pour moi... Allô ?
Ouais, on t'écoute.
Désolé, pardon. Non, mais ça, pour moi, je trouve que c'est une arme extraordinaire. Ça veut pas dire que Internet est bien ou que Internet est génial pour éduquer les gens, etc. Je dis que ça nous offre les armes, ça nous offre tous les outils nécessaires auxquels on n'avait pas accès avant ou auxquels seules certaines classes de la société avaient accès. Alors, il reste encore une fracture numérique, il reste encore des gens qui n'ont pas accès à ça. Et ça me désole parce que je trouve ça complètement... d'une injustice flagrante, quoi. Mais une fois qu'on comprend que les outils sont à dispo, qu'il suffit de s'en servir, pour une fois, c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi Internet c'est une arme fabuleuse, mais pas Internet en soi, les outils que ça nous, auxquels ça nous permet d'avoir accès. Voilà, pour moi c'est ça la vraie force d'Internet. Le fait qu'on puisse apprendre à n'importe qui, bah alors là c'est pour une clé USB et faire du reconditionnement. Alors ça paraît, c'est vrai que c'est un peu futile et voilà, mais ça permet mine de rien à des écoles entières en plein milieu de l'Afrique de pouvoir s'instruire, ouvrir des écoles, pérenniser l'éducation dans certains villages, etc. Et ça pour moi je trouve ça juste fabuleux, mine de rien. Mais ça peut nous permettre aussi à nous tous de découvrir plein de choses, d'apprendre plein de choses, enfin voilà. En ça, je trouve que c'est une arme fabuleuse.
Je suis d'accord avec toi. Si je dois qualifier, enfin, genre, c'est une arme d'instruction massive pour moi, ce truc-là. Je suis d'accord.
Alors, c'est une arme de bêtifiant. Enfin, ça crée des grosses conneries aussi. On est d'accord.
Moi, j'allais dire, c'est qui tout nous, là.
C'est toujours.
Mais là, non, mais ça part du principe. Le comportement humain, après, c'est plus.
Mais après, c'est passivité ou activité. Si t'es passif devant Internet, effectivement, tu vas être abruti par Internet, exactement comme ceux qui étaient passifs avant devant la télévision étaient abrutis par la télévision. Mais il y a des gens qui réussissent à être passifs devant un bouquin, hein, qui peuvent lire 300 pages et qui n'en tireront rien. Là, c'est un problème de comportement personnel. Soit on est actif devant Internet, c'est-à-dire qu'on va rechercher quelque chose, et si on ne le trouve pas, on va le chercher ailleurs. Et quand on ne trouve pas ce qu'on veut, et quand ce qu'on a devant les yeux nous déplaît, on ferme la page, on va ailleurs. Ce comportement-là, bon ben voilà, c'est un comportement actif. À partir du moment où tu es actif sur Internet, tu peux pas être bête, entre guillemets.
Curieux, être curieux aussi.
Mais voilà, c'est de rechercher, effectivement, et d'y aller dans un but. C'est pas y aller pour y être. C'est d'y aller pour aller y chercher quelque chose. C'est un outil. Donc si quand tu vas sur Internet, tu sais même pas où tu vas scroller et tu sais même pas quel site tu vas visiter, il y a un moment où il faut que tu te poses la question, peut-être il faudrait mieux que je ferme l'ordinateur et que je fasse autre chose pendant l'heure qui reste avant de bouffer, quoi, par exemple. Parce que si je sais même pas ce que je vais y faire, personne n'aurait l'idée, par exemple, sincèrement, hein, de sortir de chez soi et d'aller n'importe où juste pour y aller, ne sachant pas où aller.
Une balade. Ouais,
d'accord.
Je le fais.
Alors, attention, une balade, non. Une balade, c'est pas pareil. Alors, non, mais pas à 3 grammes. Pas à 3 grammes.
Ah non, mais c'est quelque chose que je fais, justement, que j'adore faire.
Non, mais ça, c'est une balade.
J'ai la chance d'habiter dans la nature.
C'est une balade, c'est différent.
Je sors, et je sais pas où
tu utilises. Non, mais quand tu sors et que tu vas te balader, effectivement, tu le fais. Tu as un objectif avant d'y aller. Tu sais pourquoi tu y vas et tu le fais quand tu y es. D'accord? Donc tu es actif. Même si tu te balades en flânant et en... J'adore la glandouille, hein. Pour moi, c'est le grand principe. Si tu vas te balader et glandouiller, n'empêche
que... Un président qui dit j'adore la glandouille.
Ah, mais ouais.
Mais non, mais l'art de présider, c'est l'art de déléguer, normalement.
Pardon,
j'essaye. Désolé. Mais non, mais c'est vrai. Regarde, quand tu vas te balader, en fait, tu es actif. Tu es absolument pas passif. Même quand tu es contemplatif devant la nature, tu n'es pas passif. Tu utilises tes yeux, tu utilises tes sens, tu es actif. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas Internet, pas Internet, la télé, pas la télé, la modernité, pas la modernité. C'est l'activité ou la passivité. Devant n'importe quoi, quand tu es passif, au bout d'un moment, tu deviens con. Je veux dire, on est tous pareils. Quand t'es devant ta série télé...
Mais qu'est-ce qu'on est con.
Mais non, mais sérieux, quoi, tu vois. Mais non, mais... Et puis, tu fais des choses que jamais tu ne ferais en temps réel. Normalement, quoi. Je veux dire, quand on gosse, par exemple... Puisqu'on a eu l'exemple tout à l'heure, quand ton enfant vient te voir et vient te dire bonne nuit, normalement, ton premier réflexe, c'est de tourner la tête, de lui faire un bisou et de lui dire bonne nuit. Tu vois, tu l'envoies pas chier. On est d'accord.
Je dis bonne nuit.
Comment tu fais, par exemple, Enfin, moi, j'ai des amis, ils ont plusieurs catégories de travail. Et on va dire, il y a des fois, t'es fatigué. Enfin, genre, oui. Il y en a, ils ont du travail physique et ils sont plus fatigués et genre, ils ont besoin de plus se poser. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est ils se mettent sur YouTube et ils regardent des trucs, qui les intéressent un peu, tu vois. Ils sont passifs, mais n'empêche qu'ils s'enrichissent.
Ah non, mais non. Alors, non. La recherche d'éducation ou la recherche d'information, c'est pas de la passivité. Effectivement, quand, par exemple, je ne sais pas ce que je vais aller regarder, mais je sais que je vais sur la chaîne YouTube d'Amaury, je sais quand même où je vais. Quand le mec rentre du boulot, j'ai dans mon village j'ai été éboueur pendant un an. Et c'est vrai que quand tu fais ta journée de boulot d'éboueur, sincèrement quand tu rentres, hormis la douche, le premier truc que tu as envie de faire, c'est pas d'être super actif quoi, tu vois. Tu viens de te taper 6 ou 8 heures dans le froid dehors accroché au cul du camion. Sincèrement, le premier truc que tu as envie de faire, c'est juste effectivement comme tu l'as dit, te poser et faire un truc pas trop stressant au niveau du cerveau, qui va pas trop
me relâcher. Voilà.
Mais exactement. Alors ça, je tout à fait d'accord. Mais encore une fois, t'as dans ce type de circonstances deux comportements. Soit le comportement totalement passif du mec qui effectivement va s'avachir devant la téloche ou devant YouTube n'importe quoi, mais sans choisir. Sans choisir ce qu'il est en train de faire. Tu vois? Et le comportement du mec qui va choisir son mode de relaxation. Alors, soit il va se relaxer en apprenant quelque chose, en s'informant, en écoutant un podcast.
C'est juste que pour moi, quand t'es passif, c'est soit t'écoutes la radio, soit t'écoutes la télé, tu t'écoutes des trucs qu'on t'impose, mais à partir du moment où tu vas sur Internet, t'as toujours l'action de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire?
Bah, sincèrement,
Après, je parle pas Internet sur les téléphones, hein, mais je parle quand tu vas sur un ordinateur.
Alors, il y a de moins en moins de gens qui vont sur Internet déjà sur ordinateur la plupart du temps, mais on parlait effectivement à la base de ce que pouvait être Internet en tant qu'arme ou en tant qu'outil. Je pense que pour moi, sincèrement, ça reste l'activité et la passivité la clé. Et quand tu me dis que la personne est passive en me décrivant certains comportements, ben moi dans ces comportements-là, je vois de l'activité, je vois pas de la passivité. En fait. C'est rare la passivité chez l'humain, hein. mais quand il tombe dedans, il devient vraiment très con. Non mais c'est, je suis navré, mais c'est vrai. J'étais barman longtemps et sincèrement, la plupart de mes clients étaient actifs. Et dès qu'ils devenaient passifs, franchement, ils devenaient cons. Non mais tu le vois bien, le pilier de bar actif, c'est le mec qui va te faire marrer, c'est le mec qui va recommander une tournée, qui va payer correctement, enfin entre. Mais bref, non mais qui va pas se bastonner, ou alors ce sera pour défendre une nana parce qu'elle s'est fait emmerder, etc. Non mais tu vois, c'est un client actif, tu vois, et ça peut être un mec à 4 grammes, et ça peut être un mec tout à fait responsable, et ça peut très bien se passer. En revanche, tu as le client passif, et on en a des. Si vous êtes comme moi. Habitué des bars de temps en temps, vous savez comment ça fonctionne. Le client passif qui reste là sur son tabouret avec sa bière qu'il a même pas choisi. D'ailleurs, il a commandé un demi. Il a pas choisi sa bière. Tu le connais ce mec. Donc voilà, tu vois, il s'assoit, il bouge pas, il commande son demi, il regarde les autres et il fait rien. Il échange avec personne alors qu'il est quand même dans un des Ouais, enfin, c'est cultissime le bistrot comme endroit de rencontre, sans déconner. Et le mec, il parle à personne, il échange avec personne, voilà. Bon ben voilà, ben cette personne-là pour moi, c'est le syndrome de la passivité. Et ce syndrome-là, ça existe aussi sur Internet, je crois, sur le type qui est là, qui scrolle, qui apprend rien, qui voit rien.
Oui, ça je pense, ouais.
Et le problème, c'est que il croit qu'il se passe rien. Et en fait, quand on est passif, il se passe énormément de choses. Quand on est passif, on reçoit et on se fait imbiber de plein de choses. Et c'est là qu'Internet est dangereux, parce que en majorité, évidemment. Si tu choisis pas ce que tu regardes, un peu comme à la télé, un peu comme dans un bistrot, si tu choisis pas avec qui tu parles, eh ben ça se passe pas bien des fois. Voilà, tu passes
on
une mauvaise
plus
soirée.
On peut plus aller au bistrot, donc on peut pas passer des mauvaises soirées.
Ouais, mais bon, tout le monde comprend l'exemple quand même, j'espère. Ah merde, sinon t'as pas choisi.
Non, on est podcast. On est tellement passif qu'on ne comprend rien.
Non mais j'espère avoir.
Non mais tu illustres bien.
Non mais tu illustres bien.
C'est intéressant tes réponses. Moi j'aime bien.
Non non mais c'est intéressant. C'est vrai qu'après ce qui fait peur c'est les gamins qui peuvent rester des heures sur TikTok à regarder ces cochonneries de vidéos quoi. Je préfère qu'ils regardent encore l'esprit sorcier ou c'est pas sorcier sur YouTube quoi.
Et tu vois TikTok c'est comme la télé parce que tu scrolles tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Ça, c'est un peu comme de la télé.
On n'a pas à la maison, ça, nous, donc.
J'ai montré un Instagram à ma petite nièce, qui ne l'utilise pas. Je lui ai dit, tu n'aimes pas? Tu n'utilises pas? Oh non, les vidéos, c'est trop long, dit. C'est mieux TikTok, parce qu'il faut du contenu rapide, tout le temps.
Ah non, mais ça fonctionne bien, hein. Je veux dire, tous les psys pour enfants l'ont dit, quand le rythme s'accélère au niveau de l'image, etc., ça provoque une réaction neurologique qui permet à l'enfant d'être totalement captivé et donc de pas faire chier. Non, ça fonctionne très très bien, hein.
Et d'ailleurs, bon,
tu mets un gamin devant une tablette. Moi.
Dans la pédagogie, on dit que genre un enfant,
Non, on l'a perdu.
Moi, la transmission.
Allô, ouais. Ouais. Vous m'entendez? Dans la pédagogie, on dit qu'un enfant, genre jusqu'à la maternelle, enfin jusqu'au CP, il faut changer d'activité toutes les 5 minutes pour pouvoir garder son attention, parce qu'il n'arrive pas à focus plus de 5 minutes.
Moi, je suis navré, mais la pédagogie ne prend pas en compte une chose, la musique. Moi, je te promets qu'un enfant, du plus petit au plus grand, j'espère, mais surtout les petits, quoi. Moi, la première fois que je leur ai fait écouter du Lou Reed, la première fois que je leur ai fait écouter Led Zeppelin, la première fois que je leur ai fait écouter Mozart, la première fois que je leur ai fait écouter Joe Cocker ou Janis Joplin, je peux te jurer que ça a duré plus de 5 minutes et ils sont restés scotchés. Et parce que la musique, ça offre un espèce de fil conducteur d'attention qui permet de faire passer n'importe quoi. Et ça, c'est une arme dont les profs se servent pas assez, je trouve. C'est dommage. Mais en matière de pédagogie, un fond musical, ne serait-ce que ça, par exemple. Hein, c'est très con, hein. Mais par exemple, tu veux apprendre quelque chose à un enfant, et ça demande un petit peu de concentration, un petit peu de machin et tout. Mets un fond musical, de la musique classique, simple, tu vois, un petit concerto de piano, un truc comme ça, un quatuor, voilà, un truc de chambre. Simple,
ça les éveille en fait.
Mais ça crée une espèce de fond, tu vois, sur lequel la quiétude peut s'installer. Ouais. Tu vois? Et là-dessus, là tu peux tenir l'attention d'un enfant. Là tu peux lui apprendre quelque chose, lui montrer quelque chose, hein, et revenir de lui, etc. Et c'est quasi infini jusqu'à temps qu'il ait faim, ouais. qu'il ait fini dans sa couche. Mais sinon, la musique c'est un outil absolument extraordinaire dont on se sert pas assez en pédagogie. C'est dommage. Voilà, juste petit. Voilà. Mais sinon, ouais. Sinon, ouais, le gamin, c'est une girouette.
Ah putain. Ah j'aime bien ce mot. Ça pourrait bien finir l'interview, ça.
C'est un Linuxien né, en fait. Comme nous, on n'arrête pas de changer de distro, c'est des logiciels, machin. Les gamins, c'est pareil. En fait, on est des gamins, ouais, c'est ça. En revanche, tu nous connais un peu de musique, on arrive à se concentrer, tiens.
Ah ouais.
je suis super d'accord avec toi, genre. Mes devoirs, j'écoutais toujours la musique, et les profs, c'est des trucs, ils n'arrivaient pas à comprendre, moi.
Ouais.
Et quand je faisais mes devoirs, j'avais toujours le fond musical. Et en fait, t'as toujours un rapport super particulier, genre, je sais pas, tu crées des mémoires sur la musique, enfin, tu sais, genre,
oui.
Pour se rappeler, Enfin bref, t'as plein de trucs et en fait pour favoriser la mémoire, il faut plus t'involves de plus tu impliques de sens, plus tu te rappelles. Genre essayer d'utiliser la musique, essayer d'utiliser la vue, essayer de plein de choses, de diversifier.
Mais la meilleure mémoire, c'est la mémoire émotionnelle. Et exactement. La musique, ça touche. Voilà. La musique, ça touche direct à l'émotion, donc.
Voilà.
Clac.
Exactement.
Ah ouais. Ah cool.
Ok.
Bah, ils se sont trouvés.
Ouais, je pense qu'ils se sont trouvés. Je pense que ça pourrait être un bon mot pour terminer la partie interview. Peut-être avant de conclure, j'ai envie de faire des recos. Je sais pas si vous en avez une ou deux qui peuvent vous revenir.
Et ma bonne touche.
Ah bah mais ça c'était.
C'est pas là qu'on place les panneaux publicitaires. Alors, allons-y.
On vous a offert 2 heures de pub, là. Non, mais bon, là. Non, je pensais plus. Non, mais au moins, là, comme on a un peu dérivé ou quoi, je pense que le but est de finir en beauté sur les 2-3 recos ou peut-être la news avant. La news que tu voulais parler, on en a parlé un petit peu en antenne. Je sais plus si c'est Arnaud ou Amaury qui en avait parlé.
Non, c'est Arnaud.
C'est Arnaud qui en avait parlé.
Avec des biens.
Ouais, c'est encore moi, pardon.
Ouais, non, mais c'est pas
encore lui, merde.
Oh, franchement.
ouais, non, j'ai vu passer cette news dans les news Debian et je trouvais ça vraiment génial à mettre en avant. Donc, Debian a offert 10 000 euros à Framasoft.
Ah, je voulais en parler.
Bah, il fallait être non. Là, justement. Ah,
voilà. Il fallait être là au lieu d'aller chercher sa pizza. Ouais,
mais non. Bah, je me tais, vas-y.
Non, vas-y.
Je vais ouvrir ma gueule ce soir, c'est bon.
Non, mais moi, on m'entend à chaque épisode. C'est,
il toi, sera 300 pour l'anniversaire, t'inquiète pas.
Brille.
Ouais, donc en fait, ouais, non, mais c'est... Donc Debian a donné 10 000 euros à l'association Framasoft pour pérenniser le développement et passer à la phase supérieure pour le développement de Peertube. Alors voilà, je trouvais ça...
Ça, c'est bien. Ouais.
Je trouvais ça assez fabuleux comme nouvelle. Alors bien sûr, Framasoft, ils ont publié sur leur blog, ils sont super contents, ils ont communiqué un peu sur Twitter et tout, j'ai vu. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment. À chaque fois on dit que le libre c'est pas du concret ou etc. Bah là c'est du bon concret quoi. On parlait de la campagne de réemploi, effectivement c'est pour faire du concret, pour faire de l'humain et pour aider les gens. Là je trouve que pouvoir permettre la pérennisation d'un bon système de partage vidéo, bah oui c'est indispensable. Évidemment que c'est indispensable. Quand on parlait tout à l'heure de TikTok, on parlait de YouTube, etc. C'est indispensable que des outils vidéo libres soient développés. Et le fait que des biens s'en préoccupent, bah ouais ça fait du bien. Voilà, moi, ça montre
que... Je pense que Peertube cartonnera le jour où il y aura une appli mobile.
Non.
Je pense que si, ouais. Parce que je vais te dire que très honnêtement, YouTube, ça devient de pire en pire sur les applis, que ce soit sur téléconnecté, que ce soit sur téléphone, ça devient irregardable. Et je pense que le jour où il y aura, le contenu... Genre pour le peu que j'ai vu sur Peertube, à chaque fois je suis pas déçu de ce que j'ai vu. C'est plus le manque de contenu qui manque, mais c'est surtout déjà il y a pas assez cochonneries de pub. Et bah non mais c'est vrai hein, parce que là c'est bon. Mais je vais pas épiloguer dessus parce que même Fabrice on a des débats sur les potes, les vidéos etc sur les pubs. Mais ce que je veux dire surtout c'est que le jour où Peertube y arrive à faire une appli mobile.
Mais NewPipe supporte Peertube, hein.
Ah ouais?
Bah oui.
Ah, c'est bon à savoir, ça.
Oh, bah, si. Sur NewPipe, tu peux y aller.
Bah, le jour où j'aurai plus mon antiquité, je testerai ça sur un téléphone. Oui, parce que
c'est peut-être mieux une appli mobile officielle, quoi.
Ouais, ou une appli officielle, Peertube, bon, après. Ah ouais.
Et du coup, moi, je voulais dire un truc là. C'est là-dessus. En fait, il y a un mec qui a pris la présidence de Debian. En fait, ils ont énormément de thunes. En fait, il avait fait un article en se disant, bah, on a tellement de thunes, mais le problème chez Debian, c'est qu'on n'arrive plus à motiver les gens à ce qu'ils travaillent. Enfin, à avoir des bénévoles qui maintiennent. Bah, il galère beaucoup plus à recruter qu'à machin. Et à ça, il explique. Il dit, par exemple, il y a un des symptômes, c'est que quand tu travailles dans le libre, t'as pas trop envie de dépenser de l'argent. T'es là, si t'es dans une entreprise, bah, tu te paieras un resto, tu te paieras un machin, un truc comme ça. Bah, eux, c'est de l'argent public et ils ont beaucoup plus de difficultés à le dépenser. Et du coup, en fait, ils ont pas mal de thunes. Genre, je crois qu'ils avaient plus de 90 000 balles. Bah, je sais plus. Et le fait qu'ils aient choisi qu'ils savaient pas trop comment faire et qu'il faut favoriser la communauté et qu'ils aient choisi de le donner à Framasoft, qui est en plus une association française. Franchement, moi j'ai trouvé ça, mais bon, une, c'est magnifique. Et voilà, bref.
Mais j'étais pas au courant, tu vois.
Pardon ?
Mais ce dont tu parles avec mais voilà, avec des biens qui avaient des ressources et qui ne savaient pas quoi en faire. C'est ça, en fait, que tu dis.
Ouais, ça, c'est, ça, ouais. C'est l'esprit vénal du président ouais, qui arrive, là. Là, il se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à récupérer.
Ouais, c'est même pas moi, j'ai rien dit.
Ah oh non, pardon, c'est Amaury.
Ils vont carrément. Ils vont peut-être donner à des biens faciles.
Ah bah tiens. Ah.
Non, c'est bon, on a besoin. On a besoin de rien.
Juste un ordi.
Non, c'est bon, je vais recevoir en plus, hein, T41.
Ah, bah, c'est...
Oh. Merci, merci Romain.
La brique,
c'est celui qui m'offre l'ordi.
Tu vas avoir une belle brique.
Ben écoute, avec ma belle brique, je vais pas sur YouTube et genre, je vais pas sur Internet et je vais pouvoir développer dessus tranquille, lancer des trucs en tâche de fond et rester peinard.
Ah ouais, pour développer, c'est le top.
Mais ouais.
Ah ouais.
Incroyable.
Ouais, c'est vrai.
Il a mis un SSD de plus. Merci.
Oh nickel.
Ah bah ouais. Mais ouais, alors je vais pas reconnaître. Il va dépasser le T61, tu vas voir.
Ah là, bah c'est très bien. Ok, ok. Bah écoutez, sur ces bons mots, on va passer à la dernière partie, les recos. Alors si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, bah tant pis. Je sais que Fabrice en avait une. Donc ouais, je vais vous parler.
J'ai un petit podcast, moi. J'en avais parlé dans mon streetcast. Ça s'appelle Le Code a changé. C'est Xavier Delaporte qui fait ça, qui est animateur, enfin radio. Mais c'est donc un podcast France Inter, mais qui est fait juste pour télécharger un podcast, qui s'appelle Le Code a changé, et qui analyse un petit peu qu'est-ce que l'informatique change dans nos vies. Et je recommande particulièrement le dernier épisode qui est sur la notation, tout ce qui est notation sur Internet. Comment s'est-on mis
à tout noter?
Ouais, voilà. Et qu'est-ce que ça change dans nos vies?
Ben, ça commence à l'école, hein.
Il sait pas une autre
chose. Ah oui, ça en parle, ça en parle.
Ah mon dieu.
Ah mais il faisait pas une autre émission avant.
Si avant c'était Place de la Toile.
Ah c'était excellent, cette émission. Mm-hmm. Super émission, je me souviens de l'émission sur l'iCam. C'est l'autorité qui donne les extensions en .net, .fr et tout ça. Mm-hmm. C'était super émission. Ah ouais.
Je le note.
Non, mais c'est plaisant. Ah, non, franchement. Parce que c'est un des rares animateurs qui connaît son sujet, quoi.
Bah, en même temps,
c'est
pas.
Il y a ce côté un peu didactique, quoi. C'est pas. Ouais,
ce qu'il y a, c'est qu'il est pas super technicien. C'est-à-dire qu'il connaît pas. Enfin, c'est pas un codeur. Mais il s'interroge sur le système, comment ça influe sur nos vies.
Il est curieux. Il faut être curieux.
Voilà.
Ah, ouais. Franchement, ouais. Ok, non bah écoute, encore une fois, mais c'est une bonne reco, donc faut pas hésiter à la relancer celle-là. Ouais, moi ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, mais je suis tombé dessus tout à l'heure, parce que voilà, faut pas me... Tu vois, tu parlais de la dernière fois, Fabrice, en antenne des Zelda, des Mario Kart et tout ça, mais moi faut pas me parler des animaux, parce que alors là... C'est un sujet où j'adore les animaux, il faut pas faire de mal aux animaux. Et la dernière campagne de la Fondation 30 millions d'amis, dont j'ai mis le lien sur YouTube, j'ai trouvé ça, mais juste excellent. Il faut la regarder, ça dure 2 minutes. Je suis tombé par le plus grand des hasards sur une pub sur le mobile tout à l'heure, mais j'ai dit, mais bravo, parce que, si quand tu regardes pas ça, tu réfléchis pas sur le fait d'avoir ou non un animal à ta maison, bah t'es complètement con. Pardonnez-moi du thème, mais c'est complètement con. Parce que je vais pas spoiler de ce que c'est, faut le regarder. Mais moi ça va, c'est rare que je tombe. C'est une vidéo qui me retourne le cerveau.
Elle est triste ou pas? Parce que moi faut pas. Si c'est triste.
Ah tu.
Amaury il pleure. Hein.
Ah ouais, non, mais moi, les animaux, j'adore.
Ah ouais, non, mais tu vas être retourné, hein.
Ah merde.
Ah ouais, c'est un truc, c'est terrible. C'est très sobre, c'est très sobre.
Mais vous avez vu Earthling?
Non.
Earthling, c'est un film qui a été publié il y a quelques années sur Internet.
Ça me dit quelque chose.
Et qui montre toute la maltraitance animale qui est faite partout dans le monde. Et voilà. Moi, depuis, je suis végétarien. Et j'ai pas d'animaux chez moi, à part un cochon d'Inde qui a une cage qui me prend 3 fois la place dans le salon. Putain.
Alors, les cochons d'Inde, normalement, c'est par deux.
Ah, j'adore.
Oui, mais je sais, mais malheureusement, le deuxième est décédé.
Ah bah voilà. Moi j'en ai 5 hein, donc je me suis fait avoir. Bah ouais. Parce que j'ai eu la bonne idée de prendre des femelles.
Ah oui.
Ouais, j'ai été prise donc
Ah ça va aller vite hein.
Ah bah de 2 c'est passé à une portée de 2 et une portée de 4 donc on en a eu 8 à un moment donné.
Oh, ouais, il faut des copains là.
Il y a une copine qui a pris et puis il y en a un qui en a dû malheureusement donner tout seul parce que c'était un mâle et j'ai dit bon non et je fais pas un élevage quoi donc lors de 2 on est passé à 5 et comme t'as dit hein moi c'est il y a 3 cages tu vois ils ont une cage pour 2 une cage pour 3 ils ont un enclos ils ont un jardin complètement cloisonné je suis devenu gaga de mes
animaux. Ah mais je suis gaga moi avec mes chiens. Ah ouais, je suis gaga moi.
Ah ouais, bah moi je suis gaga de mon chat et gaga de mes cochons donc tu vois. non là ils ont leurs pommes le matin, ils ont leurs bananes, ils ont leurs trucs. Je vais te dire si on dit que moi je suis sont malheureux mes cochons là. Non.
Enregistré sous Windows, d'accord, mais faut pas déconner avec les cochons d'Inde. Hein.
Ah ouais, exactement. Mais non, là c'est enregistré sur Mint. Ah non. Je ne suis pas l'intrus de la soirée, messieurs. Hein, non. Hein, l'intrus, c'est le Savoyard.
Tu es sur Mint et tu utilises Microsoft Edge.
Ah non, mais je l'ai même pas. Il est pas sur. Il est
ouais,
sur.
Si.
Ah ouais.
Il est sorti en version dev. On peut l'utiliser. En alpha ou en bêta.
Ah, j'ai hâte.
C'est un chromium, hein, je vois pas la. Bah après, d'un autre côté, c'était facile pour le sortir, mais je vois pas l'intérêt, quoi.
Ben non, moi non plus, mais bon. Mais vu que Microsoft aime Linux, voilà.
Linux n'aime pas forcément Microsoft.
Bah et puis d'un autre côté, leur Skype était. Moi, je sais pas, j'ai pas des bons souvenirs du Skype sur Linux, hein.
Par contre, heureusement que Microsoft a sorti Teams sous Linux, parce que ainsi je vais pouvoir, parce que tu vois, j'ai des machines que je vais faire partir Premabuntu à des enfants, à des élèves qui doivent utiliser Microsoft Teams. Et là, je me suis dit merde, mais en fait, il existe sur Linux.
Ah bah écoute, je savais pas.
Si. Ouais. Si j'en ai parlé avec Patrick tantôt, il m'a dit non, tu peux mettre sur Emma, tu ouais. dois mettre sur Emma. Et tu mets Teams, s'il existe.
Bah, je savais pas. Ok. Bah, écoute, ça sera le mot de la conclusion.
Super,
hein.
La conclusion.
Microsoft Teams. Microsoft Teams sur Linux. Il a fallu
y a mieux, quoi.
Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je veux encore une fois un grand merci à Amaury et Arnaud d'être venus.
De rien.
Ça nous a fait un grand plaisir. Je pense que ça sera à soif de revanche parce que je crois qu'on pourra faire le double et on en rigolerait toujours autant.
Ouais. Vas-y, dis-moi, vous avez une idée là de musique que vous voudriez faire passer? On parlait justement des émotions, tout ça. Une musique que vous voudriez mettre.
Ah, la dernière fois j'ai mis une chanson pour les cons, mais c'était le titre. J'ai pas d'idée pour la chanson.
Tata Yo-Yo, c'est bien.
Non, vous avez pas une meilleure idée?
Il est prêt à tout, Amaury.
Non, parce que moi, j'avoue que Tata Yo-Yo,
c'est un peu vieux, Tata Yo-Yo, bon.
Je sais pas.
Là, franchement,
Les Guns?
Oh, tu veux ce que tu veux.
Mais non, mais t'as parlé de Waterloo tout à l'heure et de la Belgique, alors mets à bas.
Ah bah voilà!
Ah bah oui, voilà!
Bonne idée!